Alors bonsoir à toutes et à tous. C'est ce que les chalim rabot, neimot de Torot, toutes les choses qui sont bien passées dans ta chair, qu'on ait une bonne année de joie, de Torah, de mitzvot, de shalom, de nachat, des enfants. Alors vous savez qu'il y a trois grandes étapes dans l'homme. Une étape qui s'appelle Katan, quand l'enfant il est petit. Une étape qui s'appelle Nahar, quand l'enfant il est jeune, comme ça il est adolescent, entre les deux. Et une étape qui s'appelle Gever, quand l'homme il devient un homme. Maintenant tout le monde sait la caractéristique qui est donnée par les Chachamim. Katan en bo da'at. Le Katan n'a pas de da'at. Le Katan n'a pas de da'at, ça veut dire qu'il n'a pas de maturité, il n'a pas de conscience, il n'a pas de connaissance. L'enfant il a une très très grande sensibilité quand il est petit, mais il n'a pas la structure mentale. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on dit Katan en bo da'at, aval gadol omed al gabab. Le Katan, lui, n'a pas de conscience, mais un adulte, il est au-dessus de lui, il se tient au-dessus de lui. Alors, on a déjà expliqué cette notion plusieurs fois, mais il faut la réécouter, parce que des fois, à force d'écouter, on commence à comprendre de quoi on parle. C'est très intéressant. C'est quoi? C'est qu'en fait, la Torah, elle veut que l'enfant, il ait un parent adulte. Maintenant, la seule manière de rendre un homme adulte, en dernière limite, ou une femme adulte, après qu'on lui a donné des parents, après qu'on lui a donné un travail, après qu'on lui a donné des études, après qu'on lui a donné un mari ou une femme, la dernière étape, c'est lui donner des enfants. Parce que devant un enfant, on est obligé d'être adulte. Parce qu'il faut bien qu'on fasse la différence entre les enfants et les parents. Donc, Katan en Boda'at, ça veut dire que l'enfant n'a pas de maturité. Ça oblige les parents à avoir de la maturité. C'est-à-dire que ça oblige les parents à devenir parents. C'est ça, Katan en Boda'at. Donc, l'âge petit de l'enfant, c'est une occasion. Parce que le parent, il va être obligé de prendre la responsabilité, d'assumer. S'il est nerveux, il va devenir calme, il sera obligé. S'il dit n'importe quoi, il va être obligé de ciment, il va être obligé de dire la vérité. S'il n'est pas clair, il va être obligé de se clarifier. Si dans la religion il est ambigu, il va être obligé de devenir clair. Ça veut dire quoi? C'est tant que l'enfant est petit, entre guillemets, qui ne comprend rien. Ça s'appelle Zman Abirur. C'est un moment de clarification pour le parent. Comme un couple. Quand on ne vit pas ensemble, chacun est baratine, chacun est rigole. Après, il ne faut pas, on ne peut plus mentir, on est obligé. Voilà comment je suis, voilà. Parce que déjà, on dort ensemble. Déjà, on parle ensemble, déjà, on fait ensemble. Maintenant, il faut choisir la franchise. Maintenant, je dis, c'est vrai, il y a des gens qui trichent, même après le mariage. Il y en a qui continuent à tricher, c'est ta faute, je comprends rien, t'es folle, t'es fou, t'es comme ta mère. Ouais. Mais il y a des gens qui ont compris que la choupa, c'est une étape, c'est un moment pour grandir. Donc, le petit âge du couple, c'est pour faire grandir le couple. Comme le petit âge de l'enfant, c'est pour faire grandir les parents. Donc, Katan en bo da'at, ça veut dire que c'est l'occasion pour l'adulte d'avoir ce da'at, d'avoir cette conscience. Après, la dernière étape, c'est Gever. Gever, c'est que l'homme, c'est-à-dire qu'enfant, il est devenu un homme. C'est ça ce qu'on veut. On veut atteindre qu'on fasse de nos enfants des hommes. Qu'est-ce que c'est Gever? Gever, ça veut dire fort. Mais surtout, Gever, ça veut dire autonome. Gever, ça veut dire quelqu'un qui se maîtrise. Gever, ça veut dire quelqu'un qui se connaît. C'est ça qu'on veut. On veut des enfants comme ça. Alors, heureusement ou malheureusement, mais comme on sait que tout ce que Hachem fait, c'est nécessaire. Donc entre les deux, entre ce moment où l'enfant il est totalement inconscient et ce moment où l'enfant il devient totalement mature, il y a cette période-là qui s'appelle Naharut. Naharut, c'est ça l'adolescence. C'est ce moment-là qui est trouble, qui est bizarre. Oui, il bouge, il est en mouvement. Et c'est pour ça que c'est tellement difficile. Parce que Nahar, en hébreu, ça veut dire jeune homme. Oui, Nahara, une jeune fille. Mais ça veut dire aussi un fleuve. Un art, ouais. Le fleuve, vous savez, le fleuve, comment il fait le fleuve? Il descend. Maintenant, il y a une loi qu'un enseignant m'a enseigné, qu'il n'était pas rave, il était plombier. Il m'a dit, un chidouche. Il m'a dit, rien n'arrête l'eau. Rien n'arrête l'eau. Il y a une fuite au sixième étage, elle passe au cinquième étage, elle passe au quatrième étage, elle passe au troisième étage. Des fois, tu dis, mais d'où elle sort cette eau? C'est impossible. Elle peut passer par les gaines électriques, elle peut passer par le béton, elle peut passer par le carrelage. L'eau, elle passe. L'enfant, c'est comme l'eau. S'il n'a pas une structure, s'il n'a pas un système, alors il va passer. Maintenant, lui, il cherche les repères, il cherche les limites. Alors, il va passer, il va faire son travail. Il est nahar, il est fleuve. Le fleuve, il descend quand il y a de l'eau dans le fleuve. Regardez quand il y a une crue. Regardez la pagaille que ça fait. Ça arrache les routes, ça casse les ponts.
Oui, ça remplit les maisons, ça détruit tout, ça salit tout. C'est ça la crise d'adolescence. C'est que le flot, elle sort du fleuve. Le nard, il est dans la crue. Alors maintenant, ça fait des catastrophes. Il dit, ça c'est nahar. Nahar, c'est aussi, en hébreu, nahar, ça veut dire aussi les itnaher, ça veut dire se débarrasser. C'est un moment de rupture. L'enfant, maintenant, il en a marre. Il ne veut plus être un enfant. Il ne veut plus de responsabilité. Des fois, il ne veut plus travailler. Ouais. Des fois, il ne veut pas grandir. C'est un refus. Il est dans le changement, dans cette notion comme ça de rébellion. Et cette notion-là, elle est contenue. Donc les trois notions, la notion du jeune homme, dans Nahar, elle est incluse dedans, la notion du fleuve, et la notion, en même temps, de ce côté rebelle, de se débarrasser des choses, de rejeter le système. Il dit, mais dans cette logique-là, pour arriver à comprendre comment elle fonctionne, c'est bien que Mina Sharaim, on est tombé exactement dans la paracha qu'on vient de lire. Vous savez que Akol Merumas Ba Paracha, tout est en allusion dans la paracha. Vous avez vu ce Shabbat que Hachem il a demandé que Caïn et Abel, deux frères, les deux enfants de Adam et Chava, ils ont voulu amener un corban. Maintenant c'est marqué là-bas, c'est très clair, que Caïn il a voulu amener des fruits de la terre et Abel il a voulu amener des fruits du troupeau parce qu'ils avaient partagé la terre. Maintenant, qu'est-ce qu'il a amené Caïn? Il a amené du bishtan, il a amené du lin. Et qu'est-ce qu'il a amené Hevel? Il a amené de la laine. Maintenant, le Radbaz, il explique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Caïn, il pensait que le monde, il doit aller selon la rigueur. Et la rigueur, c'est quoi? Le lin, c'est une planche extrêmement dure. Le fil de lin, c'est très très solide. C'est très dur. Par contre, Caïn, Hevel, lui, il pensait qu'il fallait aller selon
la laine.
La laine, c'est-à-dire la miséricorde. Le mouton, c'est l'animal le plus doux du monde. Il n'y a aucune agressivité chez le mouton. Donc il a dit, je vais amener la laine, qui est le fruit de Rahamim, de la miséricorde. Et c'est comme ça que le monde doit aller. Maintenant, le problème, c'est que Caïn, il est rigoureux. Donc comment il s'est exprimé, Caïn? Par la rigueur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué. Hevel, il est mort. Pourquoi il est mort? Parce que lui, c'est Rahmanout, il est Rahman. Vous savez, les gentils, ils sont toujours écrasés. Donc lui, il est mort à cause de sa qualité. Et lui, il est mort, parce qu'il a tué, il va mourir, à cause de sa qualité. Caïn et Hevel, ils sont morts à cause de leurs caractéristiques. Les deux avaient tort. Pourquoi? Parce que le lin, ouais, tout seul, c'est quelque chose de bien. La laine, toute seule, c'est quelque chose de bien. Maintenant, bizarrement, quand vous les mettez ensemble, ça fait chahatnez. Chahatnez, c'est interdit par la Torah. Bon, on n'est pas encore... La NASA, elle a découvert que le mélange de lin et de laine, c'était cancérigène. C'est pour ça que les juifs, ça fait 3000 ans qu'ils ne mettent pas du lin et de la laine. Bon, il y a encore des juifs un peu récalcitrants qui veulent absolument mourir du cancer, donc ils continuent à mettre. Mais il y a des gens malins qui vérifient les vêtements. À part que la Gemara a dit que celui qui porte du lin et de la laine mélangé, sa prière n'est pas entendue pendant 40 jours. Donc tu calcules à chaque fois que tu portes du lin et de la laine, donc ta prière, elle n'est jamais écoutée. Mais c'est pas grave, grâce à Dieu, on n'a pas besoin de ça. Mais c'est quoi l'idée? C'est que la personne est réfléchie. Le lin et la laine, séparés, c'est bien. Quand tu les mets ensemble, ça fait Sha'atnez. Il dit le risque base. C'est quoi Sha'atnez? Les lettres de Sha'atnez, c'est Satan Az. Satan Az. Un Satan puissant. Oui. Un homme, il ressemble beaucoup au Pishtal. C'est la rigueur. La femme, elle ressemble beaucoup à la laine. C'est la douceur. Les deux ensemble, c'est le feu. Satan Az. Oui. Parce que le lin et la laine, c'est interdit. Mais, il dit le Rav Dessler, si on prend du lin et de la laine pour faire une mitzvah, c'est permis. Si j'ai un talit en laine et je fais des tzitzit en lin, c'est kasher. Pourquoi? Parce qu'il y a une mitzvah assez, d'ochre l'ota assez. La mitzvah positive de tzitzit, elle repousse l'interdit de Sha'atnez. Donc il y a un interdit de mélanger le lin et la laine. Mais quand c'est pour une mitzvah, c'est permis. Pour mettre des tzitzit, c'est permis. Les Kohanim, ils avaient du lin et de la laine sur eux, et c'était permis. Alors, on résume. Le lin tout seul, c'est bien. La laine toute seule, c'est bien. Les deux ensemble, c'est mauvais. Mais pour une mitzvah, c'est bien. Un homme tout seul, c'est extraordinaire. Une femme toute seule, c'est extraordinaire. Tu les mets les deux ensemble, c'est le feu. Vous connaissez tous des gens, tu connais cette femme? Ah, mais quelle gentillesse, quelle douceur. Tu connais ce monsieur? Oh là là, mais quelle sociabilité, quelle ouverture, quelle communication. Tu les mets les deux dans une maison, le feu. Mais vous êtes fous, quoi. Ah, je ne peux plus la voir. Ah,
C'est bizarre. À la maison, chez Agnès, dehors, extraordinaire. Personne ne comprend pourquoi il divorce. Parce que je... Bah, attends, je le connais depuis des années. Il a jamais eu le temps. Hein. Et elle, Katrina, quelle douceur. Tu les mets bien ensemble. C'est bizarre. Pourquoi? Parce que c'est du chahatnez. Mais il n'y a pas de mitzvah. Maintenant, s'il y a une mitzvah, tu dis, écoute, je vais marier maintenant. Alors, une mitzvah de construire le couple. Il y a une mitzvah de faire attention à ce que Dieu lui demande. Il y a une mitzvah d'éduquer les enfants. À chaque fois, écoutez bien, à chaque fois que tes valeurs, elles sont plus grandes que toi, elles effacent tes problématiques individuelles. La mitzvah, c'est plus grand que toi. Ton couple, il doit être plus grand que toi. Ton projet, il doit être plus grand que toi. Et ton projet pour l'enfant, il doit être plus grand que toi. Quand le projet, il est plus grand que toi, parce qu'il est spirituel, il n'y a plus de problème. Ça s'appelle assez de chelota assez, il n'y a pas de chatnez. Ça va? C'est compliqué. C'est-à-dire qu'en vérité, rien n'est fondamentalement mauvais quand ça prend un sens. Donc maintenant, il faut comprendre. À l'intérieur de l'enfant, il y a un mélange comme ça. Il y a un Caïn, il y a un Evel. Il y a un côté chmin, un côté doux, un côté gentil, un côté mon chéri, mon cœur, ma vie. Et il y a un côté méchant. Comment il a mis le doigt dans l'œil de sa sœur? Comment il a été, il a été mentir qu'il était chez son copain pour sortir? Il fait des tarboulottes pour enlever l'odeur du tabac, ou pire, si affinité. Tu dis, mais c'est mon fils, ça. Il y a Caïn et il y a Evel. Ça, c'est, on est à la naissance de l'humanité. Donc, ce qui se passe avec les enfants de Adam et Chava, c'est l'essence des choses. Ce n'est pas des personnes. Nous, on croit qu'on parle des gens. On te raconte la famille. Il y avait la famille Adam. Ils avaient deux garçons. Ils sont bagarrés. Non. Ça, c'est pour le catéchisme. Non, on parle du fondamental, la base de l'humanité. Ça veut dire que ces notions-là, elles forment la base de l'humanité. D'ailleurs, ils disaient dans les commentaires, pourquoi ils sont bagarrés? Pour trois choses. Il y en a qui disent qu'ils sont bagarrés pour savoir où est-ce que le temple il allait être construit, le Beth Amikdash, dans le territoire de l'un ou de l'autre. Le deuxième, ils disent qu'ils sont bagarrés pourquoi? Pour la postérité. Parce que, à l'époque, il n'y avait pas d'autres enfants dans le monde. Ouais, chacun, il est né avec une sœur jumelle. Donc, Caïn, il est né avec une sœur jumelle. C'est elle qui devait épouser. Elle a épousé sa sœur à l'époque. Il n'y avait pas de femme. Ouais. Et Evel, il est né avec deux sœurs jumelles. Donc, il va épouser deux femmes. Mais Caïn, il a dit, mais moi je suis l'aîné. L'aîné, il a le droit à deux parts. Donc sur trois femmes, moi j'en prends deux, toi t'en prends une. L'autre, il a dit, mais c'est ma sœur à moi. Pourquoi tu vas l'épouser toi? Ils sont bagarrés, il l'a tué. Troisième raison, il dit pourquoi? Parce qu'ils sont bagarrés pour le territoire. Ça, c'est les raisons pour lesquelles toutes les guerres du monde, elles existent. Soit on se bagarre pour la religion, soit on se bagarre pour la postérité, soit on se bagarre pour le territoire. C'est que cette petite bagarre entre monsieur et monsieur, c'est le fondement de toutes les guerres. C'est que chaque fois que vous allez analyser cet événement-là, vous allez comprendre tout ce qui se passe au niveau mondial et au niveau individuel. Parce que dans un couple, il y a trois types de problèmes. Qui c'est le patron? Ouais. Après, qui c'est qui doit assumer l'éducation? Et après, la sexualité. Maintenant, je vous dis 80% aujourd'hui des couples, leur problème, c'est la sexualité. 80% au minimum. Que les gens ne sont pas épanouis, ou que ça se passe mal, ou qu'ils souffrent, et c'est pour ça qu'ils arrivent au divorce. Donc tu vois que les trois causes, au niveau communautaire, au niveau mondial, ou au niveau individuel, ça reste les mêmes. Donc quand vous lisez la Torah avec les yeux du microscope, vous allez voir que les fondements, ils restent les mêmes. Seulement, c'est une question de savoir, est-ce que c'est une perte de temps d'écouter le cours et ça vaut mieux de faire des Tehillim, ou non, ça vaut le coup d'écouter. Ouais. Et ça, c'est quoi ce chidouche-là? C'est un chidouche incroyable. Que Caïn et Evel, maintenant, ils contiennent, on l'a dit, la miséricorde, et ils contiennent la rigueur. Maintenant, nous, en tant que parents, aussi, on a ça. Puisqu'on a dit que le père, il correspond à la rigueur, et la mère, elle correspond à la miséricorde. Les deux ensemble, ça fait du feu. Parce que les erreurs du père, ça va être qu'il va être trop dur. Les erreurs de la mère, qu'elle va être trop cool. Alors, pour ça que maintenant, ils doivent s'occuper ensemble. Quand on les met ensemble, il n'y a pas de problème. Parce que le père, il va limiter sa dureté à cause de la rahmanout de la mère. Ouais. Et la mère, elle va limiter les excès de la gentillesse à cause de la rigueur du père. Donc, et ça, ce chatnez-là, il est permis. Mais si on n'arrive pas à se mettre d'accord, je vois beaucoup de gens, on n'est pas d'accord. Eh bien, ce n'est pas ma façon d'éduquer. Toi, tu es trop dur. Toi, tu es trop cool. Toi, tu laisses tout passer. Toi, tu laisses rien passer. Toi, tu les étouffes. Tu vois le chatnez? Il est là, le chatnez. Tu le vois. Tu le vois de tes yeux. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord.
Et ça, c'est la base. On doit s'asseoir. Il y a la mitzvah assez, il y a la mitzvah lota assez, et on va faire assez de chelota assez. Les deux ensemble, on va aller, on va éduquer ces enfants. Ils ont besoin de la tendresse, on va leur donner la tendresse. Ils ont besoin de la structure, on va leur donner la structure. Si on ne le fait pas, ouais, si on ne sait pas entraîner à ça quand ils sont petits, mais au moment de la crise, ça va être la folie. Vous voyez bien les pays, quand ils n'ont pas construit les digues, dès qu'il y a eu la crue, bah, c'était la folie. Donc quand il n'y a pas de crue, il faut construire le fleuve. Comme ça, quand la crue, elle va arriver. Maintenant, la crue, elle arrive quand? 14, 15, 16 ans. Ça va être à 14 ans pour préparer la crue. Les gens, ils sont surpris. Oh, il vient chez moi, il m'a dit, jamais j'aurais cru. Comment jamais j'aurais cru? Mais la crue, elle va arriver. Vous comprenez ou non? Ah, mais vous, il faut voir qu'est-ce qu'il a fait. Mais je suis très déçu. Et comment? Je ne reconnais pas mon fils. Je ne reconnais pas ma fille. Mais tu ne reconnais pas, papa, tu l'as reconnu à la mairie, non? C'est toi qui l'as conçu. Donc c'est ça, reconnaître. C'est connaître et reconnaître. Je le reconnais, je l'ai connu, je le reconnais maintenant. Ah ouais? Ah, je le vois là. Ah. Ça, c'est aussi ça, c'est ça aussi ton fils. Ah, tu le crois? Non, il n'y a que le sérieux. Non, il y a aussi le fou. C'est ça aussi ta fille. C'est elle aussi. Ça fait partie de ça. Tu es prêt à reconnaître ta fille, tu vas la reconnaître. Pas quand tu la connais, tu vas la reconnaître. C'est cette logique-là qui veut qu'on accepte. On accepte une réalité, on accepte les forces en présence, et par rapport à ça, on s'adapte. Parce que de toute façon, la crise, elle va arriver. Et non seulement qu'elle va arriver, mais je vous ai dit tout à l'heure que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu fait, si ça arrive, même si c'est difficile à vivre, ça veut dire que c'est nécessaire. Ça veut dire que l'enfant, il a besoin de cette crise. C'est nécessaire. Je vois les gens, ils veulent étouffer les enfants, que Chas v'Shalom, les gens, ils sachent qu'il y a des problèmes, que c'est pas clair, qu'il va montrer son caractère, il les étouffe. Il y a des gens qui font ça. Mais t'as pas compris. Je vous ai déjà expliqué un million de fois, mais je peux répéter. La psychologie, c'est comme les impôts. Tu peux payer plus tard, mais il y a des indemnités de retard. Vous suivez ou non? Quelqu'un, il peut faire la crise d'adolescence à 35 ans. Ça s'appelle l'adultère. Celui-là, il peut la faire à 40 ans. Ça s'appelle la dépression. C'est une crise d'adolescence. Ouais. J'ai envie de vivre, et j'ai droit au bonheur, et pourquoi je m'étouffe, et j'en ai marre du regard des autres, et j'ai des choses à dire, j'ai des choses à penser. Tu dis, oh Maurice, t'as 40 ans. Qu'est-ce qui t'arrive là? Mais alors? Eh ben oui, j'ai envie de vivre, j'ai envie d'être moi-même. Mais ça a 17 ans, ça. T'as 17 ans, tu fais ta crise, et c'est bien. Ouais? Tu fais ta crise, c'est bien. Parce que tu as ton père, ta mère, tes professeurs, t'es rabbini, et tu fais ta crise, et c'est bien. Qu'est-ce que tu risques? Qu'est-ce que t'as 17 ans? Mais là, t'es marié. T'as 5 enfants. T'as des responsabilités. Mais qu'est-ce que tu fais maintenant? Ils sont fous, les gens. Ouais. J'en ai marre. Et ben voilà. Et ben maintenant, j'ai envie de vivre. Et maintenant, je suis égoïste. Et ben, j'ai envie de kiffer. Je dis, mais papa, mais tu peux pas. Encore ce matin, je t'amène m'a téléphoné. Pendant 3 mois de Shalom Bayit, à la fin, elle a dit, non, je vais divorcer, j'en ai marre. Elle a fait des... Le mari, il est parti. Maintenant, il me téléphone. Elle me dit, ah ben, vous vous rendez compte? Maintenant, il ne veut pas me donner mes 5000 euros par mois. Je dis, madame, il paye la maison. Oui, il paye la scolarité. Alors, il vous a donné ce que vous avez besoin. Dites-lui ce que vous avez besoin. Ah, non, c'est jamais. Je dis, attends, c'est vous qui avez demandé le divorce. Elle me dit, oui. Je dis, alors, qu'est-ce que vous voulez, madame? Ils sont bizarres, les gens. Ils veulent l'avantage du mariage, mais ils ne veulent pas les inconvénients du divorce. Mais il faut assumer. Il faut assumer. Maintenant, tu lèves les manches. Et vous m'aviez dit que vous travaillez dans le bijou et tout ça. Ah, mais dis non, mais moi, c'est ça, c'était pour m'amuser, c'est pas pour payer les factures. Mais tu peux pas dire à ton mari, casse-toi, et après, assume. Tu peux pas dire à ta femme, t'es une chienne, et après, va dans le lit. Mais non, c'est contradictoire. Il faut être. Faut savoir sur quel registre tu parles. Maintenant, il y a le piano, et il y a la partition. Ça fait de la musique. Le piano, la partition. Quand il n'y a pas la partition, ben, quand il y a un piano. Quand il n'y a pas le piano, bon, c'est joli, au bout de 5 minutes, c'est ennuyeux de lire une partition. C'est fatigant. Il faut les deux ensemble. Le piano, la partition. L'homme et la femme. Les règles et les obligations. Les droits et les devoirs. Et ça marche. Et c'est très bien. Mais il faut rien que faire coller les choses. Ça, c'est à l'harmonie. C'est ça le Hémet. Donc il va y avoir cette crise. Elle va arriver. Il faut rien que se préparer. Pas tomber des nues. En général, quand on tombe des nues, ça veut dire en fait, on veut pas assumer. On ne veut pas avoir cette logique. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On reporte. Donc, le mari, il s'enfuit dans le travail. La femme, elle s'enfuit dans les petits. Elle s'enfuit dans ses loisirs. L'autre, elle s'enfuit dans les magasins. Rien que pour pas assumer. Mais tu n'as pas compris. C'est pas compris. Les rendez-vous. Quand il y a un rendez-vous, je vous dis une chose. Les rendez-vous. Quand il y a un rendez-vous, ouais, c'est quoi un rendez-vous? C'est que monsieur, il a rendez-vous avec madame. Toi, tu as rendez-vous avec le docteur. Tu as rendez-vous avec l'école. Vous avez des rendez-vous. Dans un rendez-vous, il y a toujours deux personnes. Quand un des deux ne vient pas, il n'y a pas de rendez-vous. Ça va ou? Non, je ne sais pas, je vous choque ou? Dans un rendez-vous, il y a toujours deux. On a rendez-vous. Eh bien, les rendez-vous de la vie, c'est des rendez-vous. Donc, ton fils, il a rendez-vous avec la crise. Et toi, tu as rendez-vous avec sa crise. Comme ton mari, il a rendez-vous avec la crise de ton fils. Comme toi, tu as rendez-vous avec la crise de ton fils ou de ta fille. On a rendez-vous, c'est des rendez-vous. Maintenant, le bon Dieu, il prend l'agenda, il marque crise. Toi, tu lui dis, mais je ne suis pas d'accord, c'est pas le moment, on doit partir en vacances. Ma mère, elle n'est pas bien, mais le bon Dieu, il a fait les comptes. Il a dit, ta mère, elle n'est pas bien et ton fils, il est en crise. Le magasin, il ne marche pas et ton fils, il est en crise. Il y a eu une naissance et ton fils, il est en crise. Tu dis, mais c'est pas le moment, ça tombe très mal, mais le rendez-vous, il est là. Il faut aller au rendez-vous. Donc le bon Dieu, il fixe des rendez-vous. Mais le rendez-vous, il est pour l'enfant, il est pour toi. L'enfant, il a rendez-vous avec sa crise, c'est nécessaire pour lui, parce qu'il a besoin de ça. On l'a dit qu'il va, avoir de la remise en cause, il va avoir des nerfs, il va avoir de la souffrance, il va avoir de la rébellion. Et d'un autre côté, il va se mettre en place. Je vous ai dit déjà ce qu'il dit le Rav de Brisque. Il dit, plus la blessure est profonde, plus la cicatrice est solide. Moi, j'ai très peur des gens qui ne font pas de crise. Je vous dis, j'ai très peur. Moi, des gens, l'adolescence, une étape. Aucun problème. Chas v'shalom. C'est qu'elle n'est pas encore arrivée. Elle va venir. Le bouton avec le pus part en dessous. Une tumeur, une pastèque de tumeur. Elle va venir. Ouais. Quand elle est passée, elle est passée. Elle a fait sa crise. Les religieux, ils veulent être pas religieux. Les pas religieux, ils veulent être religieux. C'est de la crise comme ça. Ouais. L'autre, il a élevé dans le cochon avec la croix et tout. Il veut devenir Lubavitch. Tu dis, mais qu'est-ce que j'ai pour mon Dieu? Mais qui m'a maudit? Oui. Le contraire. Toi, tu as le glat cachère, les trucs, les écoles, j'y vais, tout ça. Il veut mettre le jean. Il veut une copine. Il veut le téléphone. Il veut sortir. Il veut vérifier que la fumée, elle passe. Tu dis, mais d'où tu sors? Mais c'est quoi ces idées? C'est sa crise. Il a sa crise. C'est normal, c'est une réalité. Ouais. C'est une période qui est nécessaire. Elle est nécessaire. Je l'ai déjà dit, les bénis Israël, ils devaient passer dans le désert. Le couple, il va avoir des problèmes, mais il va cicatriser. Comprenez-moi. Tes parents, ils vont vieillir. C'est comme ça. Ils vieillissent, les parents. Tu dis, Chas v'shalom, Chas v'shalom. Ils vont vieillir. Ta femme, elle va vieillir. Vous savez, vous êtes au courant que votre femme, elle va vieillir. Non, parce que les gens, oh, tu sais, oh, t'as pris 100 grammes, oh, t'as une ride, mais il y aura beaucoup plus. Donc, si tu es un peu haram, tu te prépares. Sinon, tu vas dire, elle est vieille, je suis marié avec une vieille, elle ne m'attire plus, elle ne m'intéresse plus. Mais baba, mais t'es mal ou quoi? Tu crois qu'elle est restée en plastique? La femme, elle va vieillir. Eh bien, je vais vous dire une chose, même le mari, il va vieillir. Est-ce que vous pouvez vous teindre les cheveux ou la... Et puis les cheveux, elle peut pas enlever les cheveux blancs. Les abdominaux, les pectoraux, ils vont devenir les abdominaux. Eh ouais. Ça fait partie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des rendez-vous comme ça avec la vie. Maintenant celui qui est raham, non seulement il vient au rendez-vous, mais celui qui est encore plus raham, il se prépare pour le rendez-vous. Quand tu as rendez-vous avec un client, tu dis, je vais lui dire ça, je vais lui dire ça. Quand tu as rendez-vous avec un patron, et bien là, tu as rendez-vous. Tu as rendez-vous avec ta femme, tu as rendez-vous avec ton mari, tu as rendez-vous avec l'enfant, tu as rendez-vous avec la vieillesse. Tu vois, 40 ans, tu montes l'escalier, tu dis, oh, et ben oui, c'est 45 ans, 40 ans, ça commence, ouais. Tu veux lire un journal? Attends, je ne vais pas mettre des lunettes. Tu vas mettre des lunettes. Je vous avais dit pourquoi. Pourquoi on met les lunettes à 40 ans? Vous rappelez ou non? Vous avez dit non, ça? Vous rappelez ou non?
Non.
Oh, vous ne rappelez pas? Parce qu'à 40 ans, il faut prendre du recul pour voir. Donc quand toi, tu ne veux pas prendre du recul, le bon Dieu dit, mais chiffre, je te mets dans les yeux le recul. Tu es obligé de prendre du recul. Et c'est vrai. Un enfant, il grandit. Quand toi, tu as 40 ans, ton fils, il a 15 ans. Il a 20 ans. Ouais. Maintenant, toi, tu le regardes comme ça. Allez, enlève ta couche, enlève ton doigt de ton nez. Alors tu dis, prends du recul. Wow, c'est un homme. Prends du recul. Eh, il a grandi, hein. Il n'a pas les mêmes besoins. Ta fille, elle a grandi, hein. C'est plus une gamine, hein. Voilà. Prends du recul. Alors tu mets des lunettes, la secoue. Wow. Il a changé. Et ça veut dire quoi? C'est que tu te mets en situation de pouvoir le voir grandir. Si c'est comme ça, donc la première règle, et la règle la plus importante qu'il faut mettre déjà en place, c'est que si l'enfant il est bouleversant par ses chocs, c'est ça, bouleversé, oui, il bouleverse les choses, il change les choses, il fait sa crise. Si l'enfant il est comme ça, il faut savoir que lui-même, il est encore plus bouleversé qu'il est bouleversant. Vous savez ou non? Parce que nous, on voit le manque de confort que ça nous procure, parce que ça nous casse, ça nous embrouille, ça. Mais lui, il est perdu, lui. Encore plus que toi. Ouais. Donc il faut faire attention dans les décisions qu'on va prendre et la manière de faire, de quoi est-ce qu'elles vont être imprégnées, ces décisions. Alors la base, c'est qu'elles doivent être imprégnées d'amour. Numéro un. D'amour. Ça veut dire jamais, 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 il ne faut conditionner ses sentiments en fonction du comportement. On va avoir des attitudes, on va avoir des réactions, mais il ne faut pas changer les sentiments. Si Chas v'Shalom, l'enfant, il va croire que je l'aime moins, ou alors pire, que je l'aime plus, parce qu'il a changé, parce qu'il ne fait pas ce que j'attends, parce qu'il n'est pas exactement comme je voudrais, ça c'est très 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 dangereux pour la suite de sa vie. Vous savez pourquoi? Parce qu'un enfant, qu'à un moment ou un autre, il ne s'est pas senti aimé, c'est très possible qu'il va jamais, il va pas savoir aimer. Ou il ne va pas savoir aimer, ou alors toute sa vie, il voudra être aimé. Il va devenir un vampire d'amour. Maintenant, un vampire d'amour, c'est un aspirateur. Vous voulez ou non? Il va aller chez les gens, il va leur prendre toute l'énergie. Ouais. Parce que simplement, il n'a pas eu sa dose à l'époque. Donne-lui sa dose. Encore une fois, on dit oui, mais vous ne vous rendez pas compte, je suis déçu. Comment voulez-vous que je l'aime alors qu'il ne veut pas aller à la yeshiva, ou il ne veut plus aller à l'école, ou alors il veut mettre des pantalons comme ça, ou alors il frappe sa sœur, ou alors il dit des gros mots. Tu fais ce que tu as à faire. Tu fais ce que tu as à faire, on va voir. Mais quel est ton sentiment? Quelle est ton énergie? Est-ce que ton énergie, c'est une énergie d'amour, ou est-ce que ton énergie, c'est une énergie de nerf? Et ça, c'est la différence entre l'éducation et l'élevage. Je vous avais dit ça déjà, non? Un éleveur de poulets, il a élevé 30 000 poulets. C'est beaucoup. C'est-à-dire qu'on lui a amené des œufs. Avec les œufs, il a fait des poulets. 30 000. Tu dis, il doit avoir une expérience dans le chinour. Quelque chose de spécial. C'est un éleveur. 30 000 poulets. C'est énorme. Tu dis non. En vérité, souvent, l'éleveur de poulets, c'est un éleveur de poulets. Il n'a rien à dire. D'ailleurs, sur sa maison, c'est marqué la ferme. Il n'a rien à dire. Ouais. Parce qu'il a élevé des poulets. Par contre, quand tu éduques les enfants, quelle différence entre éduquer les enfants et élever les poulets? C'est que celui qui élève le poulet, il ne change pas avec le poulet. C'est très rare qu'un type il parle avec le poulet, ou là il se remet en cause à cause du poulet, il évolue avec le poulet, c'est très très rare. Ouais. Mais un homme qui éduque un enfant, il évolue avec l'enfant. Donc la différence entre l'éducation et l'élevage, c'est que si tu évolues avec l'enfant, ça s'appelle que tu l'éduques. Si tu n'évolues pas, ça s'appelle que tu l'élèves. Maintenant chacun il décide s'il fait de l'élevage ou s'il fait de l'éducation. Quand quelqu'un il fait de l'éducation, ça veut dire qu'il est en train de faire passer quelque chose, il choisit de faire passer un message, il choisit d'être une personne. Ouais. L'autre jour, une dame a le téléphone, des gens que j'avais déjà reçus. J'ai fait un programme, bien sûr, monsieur, il n'a pas fait le programme. C'est pas pour moi, j'ai pas besoin. Maintenant, ils sont au bord de la crise. Alors elle veut revenir, mais lui ne veut pas revenir. Alors moi, j'ai dit, dites à votre mari, si déjà moi, il ne veut pas m'assumer parce qu'il a honte de ne pas avoir fait ce qu'il a promis de faire, comment il va assumer ses enfants, et comment il va assumer la vie, et comment il va assumer le bon Dieu, parce que moi qui suis rien, déjà il ne m'assume pas moi. Moi, il peut venir et me dire, j'en ai rien à foutre de ta... Il peut me dire ça. Ouais, même ça, il n'a pas la force de le faire. Alors comment il va assumer la vie quand il va avoir quatre brêles en face de lui, quatre névrosés en face de lui, il va lui dire, c'est ça que j'ai fabriqué. Comment il va assumer ça? Si déjà une personne, il n'arrive pas à l'assumer, comment il va assumer les résultats de ses erreurs? Et je vous ai dit, l'enfant, c'est une occasion pour les parents. C'est bien, c'est bon. Il faut être intelligent. Les gens, ils font des études parce que les études, ça les fait grandir. Celui-là, il profite de son mariage pour grandir. Celui-là, il profite de la religion pour s'élever. Celui-là, il profite du travail pour devenir honnête. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens, non, ils profitent du travail pour devenir encore plus malhonnête. Il y en a, ils profitent du mariage pour encore plus écraser la gueule de l'autre. Il y en a qui font des enfants encore plus pour encore plus avoir quelqu'un à dominer. C'est dommage. On t'a donné une occasion de grandir et toi, tu t'en sers pour devenir encore plus nul. Déjà que tu étais bien nul, maintenant tu es devenu le monument de la nullité. Ouais. Donc ici, c'est pareil. Toi, tu veux éduquer. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire tu veux grandir. C'est ça, éduquer. Éduquer, ça veut dire tu veux grandir avec l'enfant. Alors tu dois réfléchir que ton esprit, l'esprit que tu vas mettre dans cet enfant, l'esprit que tu vas mettre dans la relation, elle doit être fondée sur l'amour. C'est comme ça. Ah, tu dis, mais moi, je ne sais pas exprimer l'amour. Moi, mes parents ne m'ont pas donné l'amour. C'est pas grave. Tu es un handicapé de l'amour, ce n'est pas notre problème. Mais l'enfant, lui, il va recevoir. Maintenant, puisque l'enfant, il va recevoir, regarde qu'est-ce qu'il va faire le bon Dieu. Le bon Dieu, il va t'envoyer un enfant qui a besoin de plus d'amour pour que toi, tu compenses les lacunes d'amour que tu n'as pas reçues. Donc, donc, quand Dieu t'a donné rendez-vous, il t'a donné rendez-vous précis. C'est exactement le médecin qu'il te faut. C'est exactement la femme qu'il te faut. C'est exactement les amis qu'il te faut, même les ennemis qu'il te faut. C'est des rendez-vous. Et c'est le bon Dieu qui fixe les rendez-vous. Donc, il sait ce que tu as besoin. Donc là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu vas être en face de l'enfant. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? L'enfant, c'est quoi? Il est en effervescence, comme ça, il est en fusion. Ouais. Et qu'est-ce qu'il veut? Il veut exister, c'est ça qu'il veut. Seulement, il est maladroit. Ouais. C'est-à-dire, l'initiative est bonne, mais la manière est mauvaise. Et toi, tu le sais, puisqu'a priori, tu as déjà fait ta crise, toi. Tu as déjà le recul sur ça. Tu as déjà fait le travail sur ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un parent en face d'un enfant. Enfin, il va y avoir deux parents en face d'un enfant. Maintenant, la personne que tu vas être, c'est celle qui va accueillir l'enfant. Exactement pareil que quand tu as une matière en fusion, parce que l'enfant, on l'a dit, il est en fusion. Et vous savez comment ça se passe quand on fabrique un objet? On fait fondre le métal et après on le dépose dans un moule. C'est quoi le moule? C'est le père et la mère. Donc on va déposer et va prendre la forme du moule. Mais le problème, c'est que ce moule, il est en deux morceaux. C'est vicieux. La moitié du moule, c'est le père. La moitié du moule, c'est la mère. Il faut bien visser les deux morceaux, parce que si on verse à l'intérieur, l'objet va prendre la forme du moule. Mais si les deux morceaux ne sont pas bien liés, il n'y a pas le shalom entre l'homme et la femme, quand on va verser, il va avoir des fuites. C'est pour ça que le shalom, il est préliminaire, il précède l'éducation. D'abord, je m'éduque. Ouais. Après, je m'éduque avec mon conjoint. Et après, j'éduque mes enfants. C'est normal. Sinon, il va falloir faire les trois en même temps. Donc, qu'est-ce qui se passe? Puisque moi, je vais créer un espace, je vais créer un foyer. Et dedans, je vais mettre un papa, je vais mettre une maman. Et dedans, je vais mettre un homme, je vais mettre une femme. Et je vais mettre une ambiance. Et je vais mettre de la religion. Et je vais mettre des règles. Et je vais mettre de la structure. Et je vais mettre de la propreté. Et je vais mettre une atmosphère. Et je vais mettre de l'ambiance. Et je vais mettre tout ça, je vais le mettre dedans. Ça, c'est le moule que j'ai créé. Quand il va arriver le produit, l'enfant, il est né. L'enfant, il est né. Ouais. Tu sais, d'ailleurs, j'ai une petite fille il y a 3 jours. Pas une fille, une petite fille. Ça y est, pour les enfants, j'ai payé déjà. Ouais. Mais au crime, si. Donc maintenant, c'est extraordinaire, les petits-enfants, parce que vous avez le kiff sans les responsabilités. C'est un plaisir. Kenyambou. Alors, donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Que maintenant, on a compris. Il va y avoir une confrontation entre un moule et un produit. D'accord? Maintenant, l'enfant, il est en fusion. Il va prendre la forme à l'intérieur du moule. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On crée le moule. Ben attention maintenant ce moule, parce que le moule, lui, il va créer une réaction. Si le moule, il est dur, ouais, et il est faux, alors la réaction chez l'enfant, c'est ou il va être rebelle, ou il va être sournois. Si le moule, il est ferme, mais il est vrai, l'enfant, il va être franc, il va être sincère. Donc il faut bien faire attention de quoi il est fait le moule. C'est comme un mur, tu prends une balle, tu jettes, tu sais ce qu'elle fait la balle, elle rebondit. Alors quelqu'un il m'a dit, ah moi j'arrive pas à les prendre dans mes bras, j'arrive pas à leur dire que je les aime. Je dis, vous êtes dur? Il m'a dit, je suis dur. Je dis, mais lui c'est une balle, je sais pas jusqu'où il va rebondir, il peut rebondir très loin, ou là dans un autre pays, ou là chez la Goya, il est parti loin, parce que t'étais dur. Comment tu vas faire? Là il y a une différence entre quelqu'un qui est droit quelqu'un qui est ferme, quelqu'un qui sait ce qu'il pense, ouais, quelqu'un qui est dur. Si tu es dur, vraiment dur, et que tu es faux, c'est-à-dire quoi? Tu es dur, mais tu n'es pas dur parce que tu penses ce que tu dis. Tu n'es pas dur parce que tu crois ce que tu dis. Tu es dur parce que c'est une carapace. Les trois quarts des gens qui sont durs, ouais, ils ont de l'or, mais il est à l'intérieur. Ça s'appelle de l'or dur. Ouais, c'est... ouais. Mais l'or, il doit être à l'extérieur. Tu dois être une personne en or. Le misbéach, ouais, c'est l'or dedans, l'or dehors. Au milieu, il y a du bois. Rahamim. Et ça, c'est digne. Donc ça veut dire que la personne, elle doit être forte. Elle doit être... Maintenant, si l'enfant, il voit que ses parents, ils sont vrais, même s'ils sont durs, c'est pas grave. Mais si l'enfant, il sent que les parents, ils sont faux, alors la dureté, elle va être la clé de la révolte. Pourquoi? Parce que nous, on s'est trop habitués à ce qu'on appelle le compromis. Entre adultes, il y a des compromis. Ouais. Par exemple, dans le commerce. Moi, je sais que tu mens, et toi, tu sais que je mens. Moi, je mens quand je te dis que j'ai 10% de marge. Et toi, tu mens quand tu me dis que tu n'as pas de quoi payer. On est tous les deux des menteurs. C'est pas grave, c'est le commerce. Ouais. Maintenant, on ment avec un accord tacite. Après, dans le couple, c'est pareil. Maintenant, je t'aime. Mais je sais, au fond, en ce moment, je t'aime pas. Et elle dit, moi aussi. Mais elle aussi, elle en a marre. Ouais. Mais ils mentent, mais avec un accord tacite. Et grâce à Dieu, un mois après, ça va mieux. Et je t'adore, tu es super. Et toi aussi, je suis fou. Comment j'ai pu regarder quelqu'un d'autre? Tu vois, ça monte et ça descend. Oh, le thermostat. Maintenant, pour maintenir, on a maintenu une espèce de mensonge. Mais c'est dangereux. Mais l'enfant, lui, il ne connaît pas ça. Il ne connaît pas l'intérieur, l'extérieur. L'enfant, lui, il voit ou le bien ou le mal. Il ne voit pas les nuances de gris. Donc, si tu es faux avec un enfant, ouais, et que tu es dur, l'enfant, qu'est-ce qu'il voit? Il ne voit pas que tu es dur. Il voit que tu es faux. Maintenant, puisque tu es faux, pourquoi il va accepter que tu es dur? Donc, il va refuser que tu es dur. Ça fait la rébellion. Mais si tu es vrai, c'est quoi tu es vrai? Tu es vrai, c'est-à-dire que tu es dur avec toi. Tu es dur avec lui. Tu es dur quand il fait du bien. C'est-à-dire que tu lui fais le bien quand il fait du bien. Ouais. Tu es dur quand il fait le mal. Il n'a rien foutu avec toi. Il ne va pas partir en vacances. Le pauvre. Ils vont tous aller à Elat et lui, il va rester. C'est dur. C'est comme tu veux. Tu dis, ah bon, c'est pas grave. Il a juré sur la tête de sa mère qu'il va travailler l'année prochaine. La pauvre la mère. Ouais. Il dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enfant, il se nourrit de chesed et de emet. Le chesed, c'est l'amour. Et le emet, c'est la vérité. Alors je vous dis, c'est pour ça que ça vient à 14 ans. Parce que toi, ça fait 14 ans que tu t'entraînes à être vrai. Donc toi, tu pouvais aussi être vrai avec les clients, tu pouvais être vrai avec ta femme, tu pouvais être vrai avec tes parents, avec tes amis. Donc quand l'enfant il va arriver, il va avoir quelqu'un de vrai en face de lui. Mais si toi, tu t'es arrangé pour faire des traloëls, ouais, il y en a, ils mentent aux psy, ils mentent à leur mari, ils mentent à leur femme, ils mentent à leurs amis, ils sont pris toujours dans une névrose, une angoisse, des nerfs, des affolements, et ils vivent avec passion des feuilletons américains. Mais ils sont complètement froids à ce qui se passe à la maison. Il y a des gens comme ça. Des décalés, des déjantés. Ouais. C'est dangereux. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment, tu ne peux plus tricher. Un enfant, tu ne peux pas lui dire, hey, je rigole. Non, il ne voit pas, il voit que tu mens. Il voit que tu es incohérent. Tu es incohérent. Tu dis, non, mais c'était pour rigoler. Hein. Tu vois, là, j'embrasse ta femme, c'est pas ta mère, mais c'est juste comme ça. Non, là, je vois que tu trompes maman, là. Voilà ce qu'il voit, lui. Il ne voit pas les. Bon, c'est des compromis. Il ne voit pas que la vie, elle ne va pas en ce moment. Qu'on est très dur. Que les tirari, il est grand. Lui, il ne voit pas. Lui, il voit que tu es un menteur. Il voit que tu es une menteuse. Voilà ce qu'il voit, lui. Il ne sait pas faire les nuances. Donc, ça veut dire qu'en réalité, l'enfant, il est beaucoup plus rigoureux que l'adulte. Puisque c'est ou vrai ou faux. L'adulte, lui, il va mettre Rahamim. Il va dire, bon, il y a des circonstances atténuantes. Tu ne connais pas sa vie. Tu vois des gens, ils font des grosses bêtises. Après, on te dit, ouais, mais ça fait 8 ans que ça n'allait plus à la maison. Tu ne connais pas les circonstances. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, puisque l'enfant, il a cette dureté, entre guillemets, la dureté naturelle, qu'il ne sait pas faire la nuance, donc toi, tu vas le compenser avec une vérité et avec un amour pour le compromis. C'est-à-dire que toi, tu vas combler les vides. Toi, tu vas faire que les choses, elles se font. C'est pour ça que je vous avais dit à l'époque que quand on construisait les petits murs de protection qu'il y avait autour des jardins, ouais. Avant, il n'y avait pas des parpaings, des briques bien carrées comme ça, toutes les mêmes. Avant, qu'est-ce qu'on faisait? on prenait les pierres qu'il y avait dans le jardin, et avec ça, on faisait le mur. Maintenant, quand je laboure la terre, je trouve une pierre, je la mets de côté. Je laboure, je trouve une autre pierre. Avec toutes ces pierres que j'ai trouvées dans le champ, je vais faire le mur. Maintenant, il n'y a aucune pierre pareille. La nature, elle ne fait pas des pierres pareilles. Donc, comment je vais faire pour faire un mur avec des pierres qui ne sont pas pareilles? Et le mur, il est comme ça. Alors, c'est simple. C'est que je mets du ciment au milieu. Eh bien, des fois, je mets un peu plus de ciment. Des fois, je mets un peu moins. Des fois, les deux pierres, elles se touchent. Ouais. Et des fois, je mets du ciment. Maintenant, la pierre, c'est quoi? C'est l'idatadi. Et le ciment, c'est l'idatahami. Des fois, il faut mettre plus de dialogue. Des fois, tu peux dire carrément la chose. Des fois, tu dis non, il faut faire semblant. Des fois, il faut faire avancer les choses. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va faire ce mur. Maintenant, avec quoi on a fait ce mur? On a dit avec les pierres. Les pierres, c'est quoi? C'est le champ. C'est quoi le champ? C'est ta vie. C'est-à-dire que quand tu vas labourer ton... Tu vas travailler ton couple, dans le champ de ton couple, tu vas trouver des pierres. Avec ça, tu vas vers le mur. Quand tu vas te travailler à toi tes midotes, tu vas trouver des pierres. Avec ça, tu vas faire ton mur. Alors, comment il s'appelle le mur chez la personne? Il s'appelle la dignité. Comment il s'appelle le mur dans un couple? Il s'appelle la priorité du couple. Pourquoi ton couple, il est protégé? Maintenant, la belle-mère, elle a dit quelque chose. Le beau-père, il a fait quelque chose. La parnassa, ça ne va pas. La santé, ça ne va pas. La télévision, ça ne va pas. Pourquoi le couple, il tient? Parce qu'il a une muraille de protection. Ouais. Mais la muraille de protection, il faut la fabriquer. Les gens, ils croient. Eh bien, on s'est marié. Voilà, on a fait la roupa, on a fait la mairie. C'est bon. Ça s'appelle une protection virtuelle. C'est comme une frontière. Quand tu dis... Le douanier, tu dis, ben, vous voyez, ici, c'est la France, et ici, c'est la Suisse. Toi, tu es en plein dans la forêt, tu dis, je m'excuse, attention, monsieur, je vais vous tirer dessus, là. Mais vous rigolez ou quoi, là? On est en plein dans la forêt. Dis, oui, on est dans la forêt, mais ici, c'est la France, et ici, c'est la Suisse. Ça s'appelle une limite virtuelle. Ouais. Ça va. Maintenant, le couple aussi, il a besoin de protection. Le travail que tu fais sur ton couple, il crée la protection du couple. Le travail que tu fais sur toi-même, il crée la protection personnelle. C'est quoi la protection personnelle? La dignité, le respect de soi, la force d'affirmation, la structure mentale. Mais c'est quoi tout ça? Ça, c'est les pierres que tu as trouvées. C'est le travail. Avodat Amidot, c'est ça, Binyan Nefesh. C'est ça, la construction du mur. Mais c'est avec les pierres que tu as trouvées. Maintenant, je vous dis la vérité, il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans les livres, ils prennent des pierres, ils font un mur. Vous comprenez ce que je dis ou non? Maintenant, celui-là, il va dans les livres de psychologie. Celui-là, il va dans les livres de Moussard. Mais il n'a pas construit le mur. Il prend des pierres qui sont déjà les pierres des autres. Mais ces pierres, à lui, il ne les a pas enlevées. Donc, il reste le même pauvre type, mais avec le mur de protection. Ou là de sa thérapie, ou là de sa religion. Ah ben non, tu dois prendre toi le livre de Moussa, tu dois prendre ta thérapie et tu dois travailler ton champ. Et comme tu travailles ton champ, tu vas trouver des pierres, tu vas trouver de l'orgueil, tu vas trouver de la bêtise, tu vas trouver de l'entêtement, tu vas trouver des intérêts. L'autre jour, il y en a un est venu me voir. Il m'a dit, Ravichia, c'était après Kippour. Il m'a dit, voilà, je dois te dire une chose. Tu sais, quand j'enseignais à l'école, il y a 6 ans, je suis passé dans la cantine et il y a quelqu'un qui m'a appelé par mon prénom. Et ça m'a vexé. Je dis bon. Et alors, et dans le groupe, il y avait ton fils. Alors, est-ce que ton fils, il pourrait venir me demander Mérila? Il m'a dit, ça m'a beaucoup affecté, ça m'a fait du mal. Je dis, écoute, toi, Bleinara, t'as 40 ans. Lui, je pense qu'il devait avoir à l'époque 8 ans. Maintenant, disons que c'est lui. Maintenant, tu ne sais pas si c'est lui, parce qu'il y avait un groupe de 12. Je lui dis, mais les autres enfants, tu leur as demandé qu'ils viennent m'écrire. Il m'a dit, non, rien que le tien. Moi, je ne branche pas l'ordinateur des psychiatres quand il n'y a pas de problème. Donc, je ne l'ai pas lu, mais j'ai dit, vaut mieux pas, parce que là, je vais écrire un livre. Ouais. Je lui dis, bon, d'accord. Alors, qu'est-ce que tu veux? Il m'a dit, ben, je pense que si l'enfant, il vient, il me demande m'écrire là, je pense que ça va me faire du bien. Je lui dis, bon, tout est possible dans la vie. Ouais. J'ai juste une question. Comment ça, un événement aussi débile, aussi nul, il peut te fracasser? Ça veut dire que ton terrain psychologique, il est très, 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 très fragile. Une autre fois, il cherchait du travail. Il m'a dit, oui, c'est pas à moi de demander. Sûrement que les gens, ils doivent venir me demander. Je dis, bah, c'est toi qui dois manger. Tu envoies des lettres de candidature, tu téléphones, tu dis, est-ce que vous avez un poste? Non, c'est pas à moi de faire ça. Ah non, le mec, toute sa journée, il mange des livres de moussa. Alors qu'il a une cathédrale, un immeuble de 30 mètres de haut, avec écrit de haut en bas, Gaava. Orgueil. C'est un problème d'orgueil. Maintenant, tu as un problème de concurrence avec un enfant du temps, toi. Tu as un problème, et ta famille, à la fin, bah, tu écris, tu envoies des lettres, c'est comme ça. C'est ça, la vie. Des fois, des fois, grâce à Dieu, on vient te chercher, des fois, on vient pas te chercher. Et c'est comme ça. En vérité, ouais, la personne, elle croit. Genre, c'est pas moi de me rabaisser. En vérité, c'est avec la gava. Et comment quelqu'un qui connaît tout le Messie à Técharine par cœur, il peut avoir la gava? Parce qu'il va pas chercher les pierres chez lui. Il va chercher chez l'autre. Vous avez compris la différence ou non? C'est pareil, dans notre couple à nous, on doit chercher les pierres. On dort dans le même lit, on peut parler, non? Alors maintenant, on a un problème de communication. Voilà. On a un problème d'honnêteté. On a un problème de solidarité. Alors viens, on trouve les pierres. Quand on a cherché les pierres, on a trouvé les pierres, ça nous rapproche. On est en train de fabriquer le mur de notre couple. Donc quand il vient un accident, il vient une attaque extérieure, il vient une faiblesse, il vient un problème de parnassa. Mais grâce à Dieu, le mur, il est solide, puisqu'on l'a fabriqué. Ça va? Maintenant, on veut que l'enfant aussi fabrique son mur. On l'aide à fabriquer son mur. C'est ça l'éducation. On le met en situation de « Hey, c'est ton mur. Fabrique ton mur. » Je dis, quand on était, moi j'étais dans les colonies Goy, quand j'étais petit. On était petit, hein, quand j'en avais 6-7 ans. Les slips, ils étaient sales. Par derrière, ils étaient sales. Vous suivez ou non? Les monitrices, le soir, elles nous faisaient laver la culotte. Tu vas, tu laves ta culotte. Mais quel service elle nous a rendu, cette femme? Mais c'est la tienne, tu t'en débarrasses, tu gères. Ah, mais c'est dégueulasse, pourquoi ta mère, ça fait 20 ans qu'elle le fait? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu sais que ça. Maintenant, aujourd'hui, c'est la saleté qu'il y a dans la culotte. Mais là, ça va être le gros mot que tu as fait, va t'excuser. Là, ça va être les 10 000 euros que tu as plantés, va assumer. Là, c'est toi qui as fait l'accident, tu t'arrêtes, tu fais le constat. Mais les gens qui ont l'habitude qu'il y a d'autres personnes qui lavent leurs culottes, jamais ils lavent leurs culottes, là. Je sais pas si vous me suivez. Jamais! C'est pas la peine! De toute façon, il y a quelqu'un d'autre qui va venir qui va me laver la culotte. Qu'est-ce que je vais faire? Il y a quelqu'un qui va m'arranger le couple, il y a quelqu'un qui va m'arranger les dettes, il y a quelqu'un qui va m'arranger. Mais c'est la tienne, maman, c'est la tienne, t'as marché dedans, c'est pour le bonheur, tu l'assumes. On doit éduquer les enfants dans cet esprit-là. C'est la tienne, tu te débrouilles. Moi, il vient chez moi, il me dit, papa, il n'y a pas de train, j'ai pas été à l'école. Je dis, tu prends le téléphone, tu appelles l'école, toi. Il m'a dit, mais je voulais rentrer dans cette école, mais ils m'ont refusé. Tu appelles le directeur, nous on a fait plusieurs fois avec les enfants, c'est très dur. Hein. Tu prends le téléphone, ta fille maintenant, elle a 14 ans, 15 ans. Si tu prends le téléphone, tu dis à la directrice, je veux rentrer dans votre école, j'ai travaillé pour être dans votre école, je veux passer l'examen, je veux réussir. Elle va dire, mais on vous a déjà refusé. Il y a 300 demandes, on vous a refusé. Il dit, on m'a refusé, mais je veux rentrer. Et elle est rentrée. C'est son combat. C'est comme eux, non? C'est son combat. Toi, tu téléphones, tu dis, enfin, je suis Raventel, je suis un gros donateur. Alors l'enfant, il est à moitié débile, on le prend. Toi, tu dis, mais tu veux qu'il devienne intelligent? Tu dis, vas-y, prends le téléphone et vas-y, va toi. Va laver ta culotte, va. Vas-y. 14 ans. Ils l'ont fait, hein? Je sais pas. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, en vérité, on la met. Maintenant, cette force-là, cette assurance... Cette confiance qu'elle va avoir en elle, cet enfant, mais ça vient de ça. Parce que j'ai dit, il y a de l'amour et il y a de la structure. Mais il faut que cet amour il soit vrai, c'est difficile. Donc pour ça, oui, puisque c'est quoi la structure, on a dit la première, le A, c'est cet amour-là. Le 2, c'est quoi? C'est cette perpétuité du comportement. C'est d'être assurant. C'est-à-dire que l'enfant, il voit qu'il y a des règles, il voit qu'il y a des principes, mais ce n'est pas grave. N'importe quel type. Vous savez, des enfants, ils ont grandi en Russie. Il y a des enfants, ils ont grandi aux États-Unis. Il y a des enfants, ils ont grandi en Israël. Eh bien, c'était leur règle à eux. Ils ne sont pas devenus plus fous, plus normaux. Ils étaient adaptés. D'accord? Maintenant, celui-là, il adore jouer aux échecs. Il a un génie de mathématiques à 14 ans. Parce que depuis qu'il est petit, on lui répète, refait l'équation, refait le truc. Maintenant, l'autre, il est très cool, très sympathique, très rigolo. Eh bien, il est assis comme ça. Et tu vois, il travaille. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ben, il est en train de créer un logiciel, là. Ah bon? Mais très cool, hein, le style californien. Tintin au soleil, en basket, avec une citronnade. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il s'amuse. Non, il parle pas, il fait du Java. C'est un génie. Mais tu vois, on dirait rigolo, on dirait un fou. Il est en short, le t-shirt déchiré. Il a été éduqué comme ça, et il est bien comme ça. Lui, il a été éduqué dans la rigueur, et il est bien comme ça. Ça va? C'est-à-dire que c'est compliqué à dire, mais le système éducatif, il est pluriel. Nous, on voudrait celui-là pour celui-là, celui-là pour celui-là, celui-là pour celui-là. Un enfant ashkénaze, tu ne peux pas l'éduquer comme un enfant séfarade, normalement. Aujourd'hui, il n'y a plus tellement séfarade ashkénaze, mais bon, c'est un état d'esprit. Celui-là qui a grandi au soleil, il n'a pas grandi dans le hareng, il est iceberg. Comment il va faire? C'est pas le même esprit. Ouais. Maintenant, toi, tu dis, non, je veux qu'il soit là-bas. Alors, Laurent, il va être à contre-courant. Ouais. L'autre, il va être là-bas. Il va être à contre-courant. Il va être dans son courant. Il dit, cette logique, c'est quoi? C'est que l'enfant, quelle que soit la structure où il va être, s'il y a de l'amour et il y a de la structure, il y a de la perpétuité, il va sortir bien. Ici, il a manqué, il manque quoi? Il a ce qu'il fallait. Ouais, il a mangé tous les jours. Alors, il va grandir. Il a été éduqué tous les jours. Alors, il va évoluer. C'est normal. Il dit cette logique-là. C'est pour ça que la Gemara dit que il y a une marloquette dans la Gemara. Quand vous connaissez, ça commence Ranor, Anar, Alpidako. Éduque l'enfant selon son chemin. Il y en a un qui dit entre 16 ans et 20 ans. Et l'autre qui dit entre 18 et 22 ans. Toi, tu dis, mais non, mais l'éducation, c'est quand l'enfant il a 5 ans, quand il a 3 ans. C'est vrai. Mais ça, c'est quoi? Quand l'enfant il est petit, c'est comme quand tu installes des logiciels dans l'ordinateur. Quand tu achètes l'ordinateur, il n'y a rien, il y a Windows. Après, tu veux mettre Word, après, tu veux mettre Publisher, je ne sais pas quoi, tu veux mettre Nero, tu veux mettre Halloween, tu veux mettre Dora, il faut les mettre dedans. L'enfant, quand il est petit, il n'y a rien dedans. Toi, tu installes les mathématiques, la physique, la chimie, la Mishnah, la Gemara, l'éducation, enlève tes doigts de ton nez, fais ton lit, quand tu vas aux toilettes, lève le bâton. Ça, c'est le logiciel que tu installes. Ouais. Mais tu ne peux pas encore parler avec l'enfant, il n'y a pas d'échange. Tu ne comprends rien, c'est un bébé. Ah ben non, 16 ans, 17 ans, 18 ans, Hanor Hanar Alpidarko, c'est à ce moment-là. Maintenant, tu as avec qui parler. Bon, moi, je le dis comme ça, mais c'est de la théorie, parce que moi, je vois que peut-être après la naissance du premier, tu commences un petit peu à... Parce qu'il y a beaucoup de retard dans la maturité. Ouais. Les enfants, ils ne sont pas... D'un côté, il y a des domaines où ils vont très très vite, aujourd'hui, parce que tout va très vite. Ils sont très matures très tôt, ils ont des besoins bizarres très tôt. Ils savent utiliser un téléphone que toi, tu ne sais même pas. Ouais. Oui, ils jouent avec l'iPad, alors que toi, tu ne sais même pas comment ça marche. Ouais. Ils ont des réseaux Twitter, Bitter, Schliller, alors que toi, tu ne sais pas faire un télégramme. Quand est-ce qu'on dit stop? Ouais. Et déjà, toi, tu commences à peine un petit peu à faire le email. Lui, il s'est programmé le code. Tu dis, mais c'est pas possible, il a jamais ouvert un... Roi Hakonesh de Apple. Ouais. Il te prend ton iPhone, il te l'arrange. Tu dis, voilà, va faire comme ça, ta, il t'ouvre le truc. Mais comment t'as fait? Quel est chez moi? Ça veut dire que, d'un côté, l'enfant, tout va beaucoup plus vite aujourd'hui. Et d'un autre côté, ouais, Baruch HaShem, heureusement pour nous, les valeurs, elles restent les mêmes. Sachez que les valeurs, c'est les mêmes. De l'Antiquité, le Moyen-Âge, il y a 50 ans, il y a 100 ans, c'est les mêmes valeurs. Seulement, elles vont être habillées dans un autre contexte. Elles vont porter un jean, ou elles vont porter un costume, elles vont porter un chapeau, mais les valeurs, c'est les mêmes. Donc maintenant, le problème, c'est de savoir, est-ce que je vais réussir à faire passer les valeurs? Parce que peut-être ça sera un autre langage, peut-être ça sera une autre approche. Peut-être ça sera une autre manière de faire le Dvar Torah, peut-être ça sera une autre manière d'éduquer, peut-être ça sera un autre langage pour faire passer le message. Mais les valeurs, elles restent les mêmes, les principes, ils restent les mêmes. Seulement que nous, on doit se casser la tête pour voir que peut-être que le modèle, c'est-à-dire l'attitude de nos parents envers nous-mêmes, on ne pourra pas l'utiliser envers nos enfants. C'est possible. Mais ce qu'on a reçu d'eux, ouais, c'est l'honnêteté, la droiture, les principes de fond, la crainte d'Hachem, tout ça, c'est les mêmes valeurs. La pudeur, c'est la pudeur. C'est la même pudeur. Ouais. Maintenant, tu l'as reçu comme ça, tu l'as reçu. Ouais. L'honnêteté, c'est la même. Tenir sa parole, c'est la même chose. C'est la même valeur. Tu tiens ta parole. Maintenant, tu tiens ta parole et ça te coûte 100 euros. Tu tiens ta parole et ça te coûte 100 000 euros. Tu tiens ta parole. Si tu n'es pas capable de tenir ta parole, tu n'as pas de parole. L'enfant, tu te débrouilles pour que dans l'ensemble des logiciels qu'il va recevoir, il aura ça. Installe le logiciel. Maintenant, tu l'installes par ton vécu, tu l'installes par des histoires, tu l'installes parce qu'il le voit, il voit que tu vas mettre 5 ans à rembourser la dette et tu dis, j'ai donné ma parole. Toi, tu crois que tu as remboursé une dette. Toi, tu as incrusté pour 3 ou 4 générations que tes descendants, ils vont tenir leur parole. T'as compris ou non? On n'est pas en train de vivre. C'est pas intéressant de vivre. Vivre, ça sert à rien. Tu manges, tu dors, tu vas aux toilettes. À quoi ça sert? Tu manges, tu dors, tu vas aux toilettes, tu vas aux toilettes, tu manges, tu dors. Des fois, tu vas aux toilettes avant de dormir. Des fois, tu vas aux toilettes en pleuvant. Ça sert à rien de vivre. T'as compris ou non? Ça sert à rien d'être un tube digestif plus ou moins joli. J'ai déjà vu un gardien tube digestif. On a, vous ouvrez le ventre, vous partez. Mignon. Harmonieux. C'est un tube digestif. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que le tube digestif, il a fait de sa vie. Il a des valeurs. Ses enfants, ils sont bien. Sa femme, elle est heureuse. Son mari, il est épanoui. Il a un Shem Tov. Voilà, c'est bon. C'est un bon tube digestif. Sinon, qu'est-ce qu'il a fait de manger, il a dormi? Si c'est ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand maintenant moi je vais avoir cet esprit, on a dit maintenant c'est 2 axes. Un axe qui s'appelle l'amour que je vais donner à l'enfant, et ça on a compris, ça c'est la laine, ouais, de Hevel. Et ça va être la rigueur, la perpétuité, la solidité, et ça va être le lin de Caïn. Quand les deux sont réunis, l'enfant il va cadrer. Alors il y a encore un autre enseignement dans la même paracha. Que quand Caïn, il a tué Hevel, qu'est-ce qu'il a fait à Hachem? Il s'est adressé à Caïn, et il lui a dit « Où est ton frère ?» D'accord? Alors Hachi fait remarquer que c'est exactement ce qu'il a dit aussi quand Adam Arishon il a fauté. Hachem il a demandé à Yeka, dans la même paracha, il y a 2 choses qui se ressemblent. Quand Adam Arishon a fauté, Dieu a demandé, ils se sont rendus compte, Adam et Chava, qu'ils étaient nus, ils se sont cachés derrière un arbre. Il est venu à Hachem, il a dit « Yeka, ouais, où es-tu ?» Et quand Caïn il a tué son frère, Hachem il a demandé « Où es-tu ?» Où est ton frère? Mais Hachem, il savait très bien qu'il était mort. Ouais, Hachem, il sait tout. Hachem, il savait très bien qu'il était derrière l'arbre, Adam Arishon. Pourquoi il avait besoin? Alors, il rafraîchit, il dit une chose incroyable. Il dit, « Liten pitron pe la rasa tshuva. » Pour donner pitron pe un argument, c'est-à-dire la possibilité, ouais, de faire teshuva. Maintenant, nous, normalement, si on s'occupe de nos enfants, ouais, on connaît 90% de ce qui se passe. On connaît. Ouais. Alors, si on connaît, écoutez bien, quand il y a une erreur, est-ce qu'on doit servir de notre connaissance pour les fracasser? Ou on doit faire comme si on n'a rien vu et leur tendre la main? Regarde l'enseignement, il est marqué là. Ouais. Il a volé. D'accord? Voilà, tu as acheté des fruits pour Shabbat. D'accord? Tu as acheté des fruits pour Shabbat mercredi. Maintenant, lui, il est venu, il a mangé tous les fruits. Maintenant, il y a les épluchures à côté de son lit. Si tu lui dis, c'est toi qui as pris, il va dire non. Il va dire, chas v'shalom, ouais, tu m'accuses à moi, c'est toujours moi. Mais il y a des épluchures devant son lit. C'est comme ça, non? Si tu viens, tu lui dis, oh là là, où sont les fruits pour Shabbat? Il va dire, il va voir ta tête, il va dire, je reviens. Il va partir vite, il va aller chercher, il va acheter, il va revenir. Qu'est-ce que tu lui as fait? Tu lui as tendu la main. Ouais? Et si tu lui dis, écoute, c'est toi qui les as pris. Tu es une pourriture. Tu as volé les fruits de Shabbat. C'est comme ta mère, une voleuse! J'exagère, je ne peux pas parler de mes problèmes personnels. D'accord. Mais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fin de compte, qu'est-ce que tu fais? Tu utilises ta connaissance pour le casser. Mais encore une fois, il n'y a pas un qui connaissait mieux que Dieu. Il n'y a pas un qui connaît mieux que Dieu. Et même Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a posé la question. C'est-à-dire quoi? Il a donné la possibilité à l'enfant de répondre. Maintenant, il prend un risque parce que quand tu poses la question, il peut mentir. Et c'est comme ça la vie. Si tu veux des enfants responsables, tu leur donnes le choix. Si tu veux des enfants irresponsables, tu leur enlèves le choix. C'est dur, ouais. Tu t'as dit à un enfant, écoute, moi je te conseille, hein, t'as un terreau demain, je te conseille de réviser. Si tu lui dis, assieds-toi, révise. Dès qu'il peut. Toi, tu crois que t'es efficace parce que tu l'as rendu qui révise. Mais lui, dès qu'il peut, ouf! Mais si tu fais le coup de... Moi, je te conseille de réviser, c'est mieux pour toi de réviser. Ou tu lui dis, bon, tu veux débarrasser la table? Si tu veux, débarrasse, si tu veux. Tu me comme, il n'y a rien qui va avancer, si tu veux. Et qu'est-ce que t'en penses? Et le souhaites-tu? Ça serait bien pour toi. Mais on peut pas. Il faut que ça marche. Allez, vas-y, ta. Ah, donc, colo, t'es retombé dans l'élevage, là. Allez, les poulets, allez. À la douche, hop. Tu dis, mais c'est dur de leur laisser le choix. Si tu leur laisses le choix, tu vas avoir des enfants de choix. Si tu leur enlèves le choix, tu vas avoir des hamars hypocrites qui vont faire ce que tu demandes, mais hypocrites. Parce qu'en fin de compte, ils ont toujours été dirigés, comme les ânes. C'est pas moi qui dis ça, c'est un volbeu. Maintenant, c'est difficile pour nous en tant que parents de donner le choix. Mais tu fais toujours le calvaire sommaire. Mais c'est encore plus dur pour Dieu de donner le choix. Et il donne quand même le choix. C'est que le pari du libre arbitre, c'est un malaise. Comprenez ou non? C'est un malaise, le libre arbitre. C'est difficile. C'est comme si toi, tu vas demander à ta femme, est-ce que tu m'aimes tous les jours? Et tu prends un risque. Il y a une chance sur deux. Il y a un matin, elle dit, je t'aime plus.
Si les enfants prennent de la drogue, ou ils boivent, ou ils font...
Ouais. On va arriver à ça. Ouais, j'ai compris. Mais il faut comprendre le principe généraux. D'accord? Mais alors, ce qui est compliqué, c'est qu'aujourd'hui, ce genre de problème-là, malheureusement, c'est devenu quelque chose de normal. Si on dit les gens, oui, vous exagérez avec votre religion. Mais il faut savoir que les valeurs, ou tu les prends dans la Torah, ou tu les prends dehors. Quand tu les prends dehors, il y a du bon et du mauvais. Hein. C'est-à-dire que dehors, c'est normal de se bourrer la gueule, c'est normal. Tous les week-ends. Le shit, c'est normal. Comment tu fumes pas de l'herbe? Mais t'es un malade ou quoi? Ouais. Tu couches pas avec des filles, c'est normal. Donc le problème, c'est quoi? Il faut décider où tu prends tes valeurs. Moi, les gens, ils me disent, vous êtes trop dur avec les enfants. Non. Moi, j'ai 4 ordinateurs. Il y a pas, les enfants, ils touchent pas Internet. Ça passe que c'est. Hein. Même à l'école, quand ils leur demandent, c'est moi qui vais chercher. Parce que moi, j'ai besoin pour le travail, mais eux, ils touchent pas. Voilà. Après, ils t'appellent, ils te disent, mon fils, 3 heures par jour sur Facebook, qu'est-ce que je peux faire pour le mettre au travail? Je dis, il y a des goïnes qui enlèvent Facebook. Toi, tu en as mis dans chaque chambre. Mais c'est des valeurs, c'est des questions de valeurs. Donc c'est exactement pareil. Alors moi, je vois, ils donnent à boire aux enfants. Ils sont petits, vas-y, go, c'est bien, les haïm, la mamette. Il faut savoir, c'est quoi la... C'est pareil, maintenant c'est bien qu'il a une copine, au moins je sais avec qui il est. Après, elle vient, elle est enceinte, qu'est-ce qu'on va faire?
Mais vous ne laissez pas les choix à vos enfants.
Si, puisqu'on leur explique depuis qu'ils sont petits.
Non,
mais on leur explique depuis qu'ils sont petits. On leur explique qu'il n'y a pas besoin. Je te dis, moi j'ai passé le bac sur Internet, toi tu vas passer sur Internet. Tu veux faire l'exposé, va à la bibliothèque. Il va, il revient, il n'a pas besoin. Mais ils n'ont jamais eu le besoin. Mais seulement, il ne faut pas craquer, attention. Si vous craquez une fois, c'est fini.
Il ne faut pas
craquer. Ouais. On dit, mais les jeux. Nous, on n'a pas les jeux vidéo, tout ça. Pourquoi? Parce que les jeux vidéo, c'est, on dit, la règle dans les jeux, c'est quoi? C'est que si un jeu, les jouets qu'on peut donner aux enfants, ce sont des jeux que tu sais que quand ils seront adultes, ils ne joueront plus avec. Maintenant, les jeux, ils sont tellement bien faits que les mecs, à 35 ans, ils jouent. À 50 ans, ils jouent. Moi, je les vois dans l'avion, à côté de moi. Le type, il est ingénieur. Il vient de faire un truc de 19 pages en mathématiques. Ouais. Et après, il ouvre, il joue. Tu le vois, 35 ans, ingénieur. Je ne sais pas qui c'est. Est-ce que c'est un ingénieur qui joue ou c'est un gamin qui fait un travail d'ingénieur? Je sais pas. Ouais. Non. Tu as le vélo, tu as la cavale. T'as la patinette, voilà, ça c'est les jeux. C'est-à-dire que quand tu donnes des règles, quand tu donnes des principes, quand tu donnes, automatiquement l'enfant il trouve ça normal. Là on a fait Simchat Torah. Ouais, on a vendu les mitzvot. Combien on a vendu? 1500 dapim. 1500 dapim, tu vois un enfant de 16 ans, il lève la main, il fait 1500 dapim. Mais c'est pas 1500 dapim le problème. C'est le travail des 1500 dapim. Comment tu peux éduquer un enfant qui trouve normal de s'engager à faire 1500 dapim de Gemara? C'est comme si un enfant gueule, il s'engage à lire 500 livres cette année. Tu vois un gosse le matin, il se lève et dit, je vais lire 500 livres. Oh, 500 livres, ouais. Parce que 1500 d'apim, c'est minimum 500 livres, ouais. C'est ça. Donc ça veut dire, comment on peut éduquer un enfant qui trouve ça normal de travailler, de réviser, de... Ah, c'est un rôle. Alors que nous, on a créé une autre génération, nous. Nous, on a créé une génération, écoutez bien, on a créé une génération où les enfants, ils sont fatigués de leur flemme. C'est-à-dire tellement ils foutent rien qu'ils sont fatigués. Rav Dessler, il dit ça. Vous regardez dans le Halek Dalet, ouais, il amène sur Caïn, justement. Il dit la différence entre Caïn et Evel, c'est ça. C'est qu'il a créé quelque chose où l'enfant il a cassé quelque chose, il a détruit quelque chose chez lui, il a détruit la spontanéité, il a détruit le travail, il a détruit le courage. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé la glande, il a trouvé le lit, il a trouvé que ses parents y payent tout. Alors maintenant, il a une autre maladie, maintenant c'est dur. Alors ils te disent, j'ai pas les nerfs, ça m'intéresse pas, c'est pas mon goût. Mais en vérité, ils sont fatigués de leur flemme. Lui, il va très loin. Lui, il dit, ça s'appelle mitata nefesh. Il y a mitata nefesh. Il a dit, parce que, alors, à Noten, la naïf koar, Hachem, il donne la force, que quelqu'un, il peut. Et le contraire, quand il a cassé l'intériorité, c'est-à-dire il a cassé l'impulsion première, il a cassé l'énergie vitale, tu sais quoi, il n'a même pas la force de se lever. Pourquoi je vais me lever? Pourquoi je vais créer un système dont je vais être fier, alors que je peux le fumer et en 5 minutes rentrer dans le système? Pourquoi je vais me battre avec le produit pour créer le magasin, alors que quand je bois la moitié de la bouteille de vodka, j'ai les mêmes sensations? Pourquoi je vais mettre en place tout un système, alors que dans le poker, j'ai les mêmes sensations? D'accord ou non? Maintenant, le Satan, il propose ça. Mais maintenant, nous, on doit savoir. On doit savoir, nous, qu'est-ce qu'on veut. Il faut être clair. Tu ne peux pas maintenant jouer toute la nuit au poker et dire à ton fils, c'est pas bien pour toi. C'est comme si quelqu'un il voit un film dégueulasse à la télé. Il dit, non, c'est pas pour toi. Tourne la tête. C'est-à-dire que l'enfant, il a compris que quand il sera grand, il aura le droit de regarder des films dégueulasses. Il est pressé de grandir. Mais il est malin. Il ne va pas attendre de grandir, Yahma, parce qu'il va faire le code, il va aller sur le site. C'est compris ou non? Encore une fois, c'est quoi? C'est ça. Moi, je vous parle gentiment, je vous parle. Mais si vous voulez parler de la réalité, non, on va sauter par la fenêtre. C'est quoi? C'est que la personne, elle sait ça. Mais je vous donne les règles. Après, on va voir les cas. Mais les règles, c'est quoi? C'est ça. Qu'il y a cet esprit-là d'amour et il y a cet esprit de structure. Il dit maintenant, quand on va vers l'enfant et qu'on tend la main à l'enfant, l'enfant, il veut ça. L'enfant, il attend ça. Même l'enfant que tu vois qui est rebelle et qui dit j'en ai rien à faire et tu m'énerves et vous me saoulez et tout ça, après il va voir la maman, il dit qu'est-ce qu'il a dit papa? En fait, papa, il est content, il est bien. Tu vois, le même que tu crois qu'il n'en a rien à faire, en réalité, lui, ouais. Il va exprès. Il dit vous me saoulez avec la synagogue, après il part en voyage, là-bas il dit à tous ses copains allez, mettez la kippa, venez, on va trouver un restaurant cachère. Le mec qui te dit j'en ai rien à foutre, c'est lui qui. Ses copains, ils disent mais je comprends pas qu'est-ce qu'il a, il est religieux quoi. À toi, il te dit j'en ai rien à faire. C'est quoi? C'est que l'éducation, elle est là. Il a reçu ce qu'il a reçu. Maintenant, le problème, c'est est-ce qu'il va utiliser ce qu'il a reçu, ouais, ou est-ce qu'il va s'asseoir sur ce qu'il a reçu? Il dit, si, c'est ça. Ça veut dire que quand on accompagne un enfant, ouais, on l'accompagne. On ne le casse pas, on le recadre. C'est qu'il reprend une direction, on redonne une direction. Il dit, ça dépend maintenant dans l'attitude qu'on a dans le comportement. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de parents, ils disent, ouais, mais nous, vous savez, nous, on est comme des copains. Moi, je suis avec mon fils, c'est mon copain, et ma fille, c'est ma copine. Non, tu ne peux pas faire ça. Parce que l'enfant, il a besoin d'un référent. Le référent, il doit être solide. Tu sais, quand l'alpiniste, il monte la montagne, il met un crochet. Il fait pam, pam, pam avec le marteau. Hein, et ça tient bien. Ça tient bien. Si tu dis, ah, c'est pas grave, la pauvre la montagne, Hina, on ne va pas la frapper. Alors on va mettre le crochet comme ça gentiment. On va trouver un petit trou, hein, une fente. On va le mettre gentiment. Et après on va accrocher 80 kilos. Et le crochet, tout doucement, il va sortir. Et on va tomber dans le ravin. Non, t'es obligé. Ouais, c'est des référents. T'es un référent, toi. Toi, t'es un référent. Ça doit être solide. Et cette logique-là. Ah, maintenant, au fur et à mesure qu'il va grandir, bon, Hachem, après, le dialogue, il est différent. On parle en traduit, mais quel âge il a maintenant? Mais quand il est petit, si tu fais copain-copain, ça ne marchera pas. Parce que lui, quand est-ce qu'il a eu la référence? Quand est-ce qu'il a eu les repères? Quand est-ce que c'est rentré dans sa tête? Ils appellent ça le sirtout. Ouais, dans le Sefer Torah, tu sais, on prend une pointe et on marque le Sefer Torah. Après, il va écrire le Sofer. Mais on marque d'abord la peau, la marque. L'enfant, c'est pareil maintenant. Maintenant, il va marcher droit. Si un enfant, il a bien appris à lire, il va bien lire. Maintenant, on lui apprend à écrire sur les feuilles. Ouais. L'enfant, tu lui apprends à écrire. Il ne doit pas dépasser les deux. Alors, les lettres normales, il fait entre deux interlignes. Et les grandes lettres, entre deux. Ouais. Entre quatre, c'est-à-dire. Ouais. Il ne doit pas dépasser. Tu dis, mais à quoi ça sert? Après, la grammaire, tu mets un S. Là, ENT. Là, tu fais la conjugaison. Mais on s'en fout, de toute façon, il parle en SMS. Mais c'est vrai qu'il peut parler sans ça, sans les règles. Mais la règle, ce n'est pas la règle qui est intéressante, c'est la structure mentale de la règle. Parce que là, il fait attention comment il écrit. Après, il fait attention comment il parle. Après, il fait attention comment il pense. Après, il fait attention s'il dit ce qu'il pense. S'il dit ce qu'il pense. Parce qu'il a la grammaire de la tête maintenant. Il a la structure. Il suit des règles. Il suit des principes. Il sait des choses qu'il ne fera jamais. Parce qu'il suit, parce qu'on l'a tracé. Et cette logique-là, ça veut dire que c'est un mélange de rigueur et de tendresse. Maintenant, cette rigueur-là, on a dit qu'elle est nécessaire. Et c'est quoi cette rigueur-là? C'est la logique, c'est le calme, c'est la vérité, c'est la justice, c'est la cohérence. Il reçoit tout ça. Il le reçoit. Ça donne un mélange. Maintenant, si on n'arrive pas à faire ça, et c'est difficile. Alors, c'est aussi écrit dans la paracha. Pourquoi? Parce que quand Caïn il a tué Abel, à quoi il a été condamné? C'est bizarre. C'est très bizarre, cette paracha. Ouais. Moi, j'aurais dit, bah, puisqu'il a tué, il va mourir. Non, non, non. À quoi il a été condamné? Nar venad yebaret. Il est devenu errant. C'est bizarre, non? C'est bizarre. Vous avez réfléchi, non? C'est bizarre. Pourquoi il est condamné comme ça? Moi, j'aurais dit, il a tué, je le tue. La Torah nous dit, Hayav Mita, il a tué, il est sans... Il y a des témoins, il n'y a pas de témoins, on va tuer. Non, 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 non. Nar venad. Pourquoi? C'est qu'il est errant, il est perdu, il est perturbé, il est en perte de repère. Pourquoi? À cause de quoi? À cause d'un meurtre. D'accord? Alors moi, j'ai pensé comme ça. J'ai dit, c'est quoi ce meurtre? C'est quoi le meurtre? L'enfant aussi, il est perturbé. L'enfant, l'adolescent, il est perturbé. Mais vous savez, c'est marqué Mita Zepiroud. À chaque fois, vous trouvez ça. Bechol makom shiesh Mita yesh Piroud. Le Ramban, il explique ça. Le Rav Chaim Friedlander, souvent, il le ramène. Le Rav Dessler, il le ramène. Piroud, c'est quoi? C'est la séparation. La mort, c'est la séparation. À chaque fois que tu tues quelque chose, c'est parce que tu l'as séparé. Quand tu enlèves le fruit de l'arbre, tu l'as tué, parce que tu l'as séparé de la source. Si tu coupes un membre, tu l'as séparé du corps, il va mourir. Tu sépares l'homme et la femme, le couple, il est mort. Ouais. Maintenant, tu sépares l'homme de la vérité, et le mensonge, il apparaît. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a séparation, il y a mort. Ça va? Chaque fois qu'il y a séparation, il y a mort. Maintenant, l'enfant, hein? Ouais. Maintenant, l'adolescent, il a tué l'insouciance de l'enfance. L'insouciance. Il croyait la vie, c'était comme des dessins animés, les princesses, tout ça. Maintenant, on lui montre la vie, les obligations. Donc, il y a quelque chose qui est mort, là. Son rêve de le côté rêveur, il est mort. Après, le fait qu'il croyait qu'il pouvait toujours s'en sortir sans faire d'efforts, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui assume, ça aussi, c'est mort. Parce que maintenant, il faut qu'il assume. Maintenant, il redouble. Maintenant, il est renvoyé de l'école. Maintenant, il faut qu'il refasse l'interro. C'est sérieux, maintenant. C'est plus une petite classe. Maintenant, c'est sérieux. Après, des fois, ce qui est mort, c'est l'image qu'il a du système. Des fois, il est déçu de la Torah. Des fois, il est déçu de ses parents. Des fois, il est déçu de l'école. C'est pour ça qu'il faut faire très attention de ne pas casser. De ne pas casser l'école et de ne pas casser la Torah. Et de pas... Pourquoi? Parce que même si le système, il est mauvais, mais c'est un système. Mais quand tu casses le système, il y a pire qu'un mauvais système. C'est pas de système. Pas de système. Je vois, encore la semaine dernière, à Sukkot, il y a un jeune homme qui est venu me voir. Il m'a dit, maintenant le mec a 12 ans, le shit, après la coke, après les bêtises, et les reparties, il est d'une famille religieuse. Il m'a dit, mais moi je lui parle de repères, et moi je lui parle d'équilibre, et je parle pas de religion du tout. Il m'a dit, rien, mais je vais mettre les téfilines. Je dis, non, déjà réfléchis, qui tu es, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu penses, quel lien tu entretiens avec Hachem. Il m'a dit, mais moi, depuis que je suis petit, mes parents me disent, ouais, ce rabe-là, il est tordu, celui-là, il est tordu, celui-là, il est tordu, là, t'as la casse-côte, c'est ça. Et l'embrouille, c'est ça. Mais l'enfant, il n'a pas de repère. Tu dis, Goyim, c'est des fous. Les rabbanim, c'est des voleurs. La casse-côte, c'est du business. Le Shabbat, c'est une embrouille. On peut se raser avec. Donc, mais le problème, il n'a pas de repère. Il n'a pas de repère. Il est narvenade, celui-là. Narvenade, bah arrête. Ouais. Il est narvenade. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est mort. À l'intérieur, il y a quelque chose qui est mort. On a tué. On a tué l'espoir, on a tué l'insouciance, on a tué la confiance, on a tué les valeurs. Cette mort-là, ouais, ou alors des fois c'est parce qu'il y a une déception amoureuse. 14, 15 ans, comme ça, il a été cassé, ouais. Des fois c'est dans l'amitié. Il a raconté toute sa vie à quelqu'un et la personne elle raconte sa vie. Mais il y a quelque chose qui a été cassé, ouais. Puisqu'il a été cassé, donc il est condamné à l'errance. Il commence à errer. Maintenant, puisque l'enfant il va errer à cause de cette brisure, de cette petite mort, ouais. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut le rassurer. C'est là qu'il faut être présent, ouais. C'est pour ça que plusieurs fois je vous ai dit que Amalek, il a attaqué les Bnei Israël dans le désert. Vous vous rappelez de ça, ouais. Or le désert c'est quand? L'Égypte, ça correspond à l'enfance. la terre d'Israël, quand les Israël sont rentrés en Israël, ça correspond à l'âge adulte. Et au milieu, il y a l'adolescence. Amalek, le Yetzirara, il attaque pendant l'adolescence. Ouais, il attaque pendant l'adolescence. Pourquoi? Parce qu'il sait que l'enfant, il n'est plus dans la structure limitée, ouais, écrasante des parents et de l'école. Il n'est pas encore dans l'autonomie de l'adulte. Alors, il est un peu perturbé comme ça. Il est narvenade, il ne sait pas où il habite. Il vient, il le fracasse. Une jeune fille, elle m'a appelé, juste la veille de la fête. Elle m'a dit, oui, mais j'ai des doutes. Je dis, mais vous savez que Amalek, c'est le descendant de Esav. Et le prince de Esav, c'est Yetzer Hara. Et Amalek, c'est la valeur numérique de Safek, c'est le doute. Donc le Yetzer Hara, il se nourrit du doute. Maintenant toi, tu dis, oui, mais je ne prends pas les religieux, ils sont affirmatifs. Dans la vie, c'est ou le doute ou l'affirmation. Maintenant, des gens, ils croient que l'objectivité, c'est le doute. Ils cultivent le doute. Qui a dit, où c'est marqué, à quoi ça sert, de toute façon, c'est pas évident. Moi, je n'ai rien contre moi. Moi, j'adore ça. Moi, j'adore les circonvolutions intellectuelles. Moi, j'adore les constructions sur 16 000 mètres de hauteur de raisonnement. J'adore ça. Mais j'ai mes pieds sur terre. Hein. Mais si toi, tu refuses les repères, sous prétexte qu'on te les impose, et tu n'as pas de repères, mais t'es énervé là, toi. T'es pire. Il n'y a plus rien. Rien. C'est ce qui est marqué ici. Il dit que la personne, ouais, elle va avoir en face d'elle, elle va avoir son père et sa mère dans le désert. Il y avait les Anan et Kavod. C'est quoi les Anan et Kavod? C'était au-dessus, en dessous, à droite, à gauche. Mais à l'intérieur, ils avaient libre arbitre. Donc l'enfant, il sait qu'il a son père, sa mère. Il sait qu'il a le bon Dieu au-dessus de sa tête. Et il sait qu'il a la terre à ses pieds. Il a la réalité. Ouais. Il va grandir à l'intérieur. Ça s'appelle l'anane kavod. C'est que l'enfant, il est petit. Tu le prends, tu fais attention, tu le laves, tu le douches, tu le truc. Maintenant, il a 17 ans. Tu lui dis, va dans la douche, j'arrive. Tu lui dis, non, il te dit, écoute, papa, c'est bon. Mais je t'ai changé la couche. Ah non, c'est bon, ça va, c'est bien dérouillé. Donc tu vois bien que l'enfant, plus il est petit, plus l'intervention physique, elle est proche. Par contre, plus il grandit, plus l'intervention physique, elle est éloignée. Ça va? Voilà. Mais attention, l'intervention physique, elle se baisse, mais l'intervention psychologique, elle augmente. Moi, je vois les gens, le bébé, il a 3 mois. Mon cœur, ma vie, je t'explique, la vie, la beauté, le soleil, le temps, et Dieu est ta mère. Et quand il a 14 ans, je ne peux lui parler. Il m'intéresse plus. Il m'a écœuré. T'es un petit, t'es nul, t'es une sale race. Mais non, t'as pas compris. Quand il est petit, il ne comprend rien, c'est un tube digestif. Ça ne sert à rien de lui parler. Maintenant, il a 14 ans, c'est là qu'il faut lui parler. Pour ça que l'enfant, on a dit le désert, c'est Midbar en hébreu. Et le Yetzirara, il attaque l'enfant quand il est dans le Midbar. Et Midbar, c'est le désert, parce qu'il est dans le désert. Il ne veut pas aller chez ses professeurs. Il ne veut pas aller chez ses rabbinim. Il ne veut pas aller chez ses parents. Genre, c'est la vieille génération. Ouais, il est dans le désert. Mais Midbar, c'est les mêmes lettres que Medaber. Medaber, c'est parler. C'est maintenant qu'il faut parler. Tu t'assois, tu prends par la main, tu dis, viens, on va se promener. Tu lui parles à la synagogue, tu lui parles sur le chemin, tu l'emmènes au travail, tu lui parles, tu rentres dans la chambre et tu le prends dans les bras. Et combien je t'aime et comment c'est bien et comment j'ai compris. Voilà mon fils, moi j'ai réfléchi à ça et ça, qu'est-ce que t'en penses. Il va dire, waouh, je croyais que j'étais un pauvre type, je croyais que j'étais un nul. Oh, mon père, il prend conseil de moi, mon père il m'écoute, mon père il entend, ma mère elle prend du temps, on s'assoit dans la cuisine. Après elle vient, des années, elle vient et te dit, tu sais les meilleurs moments. Tu dis, ah, c'est les vacances quand je t'ai payé à Eilat, quand je vous ai emmené à Cancun, quand je t'ai fait le voyage. Non, c'était les petites discussions qu'on avait sur la chaise de la cuisine. C'est ça qu'ils sont rappelés. Ouais. Et toi, tu dis, je vais les éclater, ouais, le coco. Ça, c'est vrai. Ouais. Moi je leur racontais des histoires quand ils étaient petits. Je suis étonné que 23 ans après, ils se rappellent l'histoire. On s'assoit par terre dans la chambre. Et je leur raconte l'histoire, ils se rappellent l'histoire. Tu sais pas de quoi ils se rappellent les enfants, ouais. En fait, ils se rappellent des moments d'intimité, ils se rappellent des moments d'investissement. Parce que c'est là que ça pénètre, c'est là que ça passe. Quand tu veux les éclater, tu leur prends les clubs méditerranéens et les trucs et le squat des mers, les harbabal. Mais tu les vois pas, l'autre il est là-bas. Après, ah, t'es sorti, moi t'as fait une sortie, moi j'ai fait une sortie. Ah, moi j'étais en soirée en poker, et t'étais en boîte, et oh, on a passé des vacances de folie, ils sont tous bronzés. Alors, tu as vu ton père? Non. Et ta mère? Non. Et tes copains? Bah oui. C'est ça les vacances? Les vacances, c'est pour être ensemble. Déjà, le travail, t'as volé ton père. Alors, moi, tu le vois pendant les vacances. ta mère, alors c'est le moment. On marchait, on allait dans la montagne, on marchait, on trucait, on se baladait. Des bêtises, des lourdeurs. Maintenant, ils ont créé des loisirs individuels. Donc, chacun a personne, il a personne, tout le monde a personne, a besoin de personne. Mais quand est-ce que tu vas faire le ciment? Quand est-ce que tu vas faire le ciment? Ouais. Ah, il m'a téléphoné. Il m'a dit, Rav, j'ai un problème. J'ai fait ce que vous avez dit. J'ai été voir mon fils. Je lui ai dit, écoute, mon fils, je t'aime, il faut que je te parle. Il m'a regardé avec des yeux, il m'a dit, qui vous êtes? Je lui ai dit, mais pourquoi? Il m'a dit, bah, c'est. Et ben, j'ai, il a 19 ans, c'est la première fois que je lui parle. Ouais. Et cette logique-là. Ça commence à quelle heure? 6 heures. Ah, on est juste. Donc cette logique-là, elle veut dire une chose extraordinaire. C'est que les repères qu'on va créer autour de l'enfant, c'est ça ce mur de protection positif dans lequel il va grandir. C'est la force, la vérité, la profondeur, l'ancrage dans les choix, l'intériorité, ouais, pas de la superficialité, la modestie, être responsable, c'est ça ce qu'on va apporter. C'est ça qui va créer l'espace dans lequel l'enfant il va grandir. Alors après, pour lui, c'est la normalité. Alors quand il a attrapé ses normes, ouais, quand il a attrapé ses normes, et qu'elles n'ont pas été fondées sur la pression ou sur l'hypocrisie, alors il faut savoir une chose, c'est que quand vous voulez fabriquer un pilier en béton, vous mettez un cadre en bois, après vous mettez dedans des barres de fer, et après vous mettez du béton. Après vous mettez un appareil qui fait vibrer le béton, et ça tasse le béton, vous voyez, et après vous attendez que ça sèche. Et quand c'est sec, vous enlevez le cadre en bois, il reste le... D'accord? Maintenant l'enfant c'est quoi? L'enfant, c'est, écoutez bien, le cadre, c'est la famille, c'est l'école. Le cadre, les barres de fer, c'est les principes fondamentaux que tu lui as donnés. Et le béton, c'est la Torah et l'amour, la Torah et l'amour, la Torah et l'amour. Quand c'est bien tassé, c'est-à-dire la maison, elle est bien pleine, c'est pas qu'il y a des trous. Genre, il y a des trous, maintenant, il y a la vérité, et d'un seul coup, il y a le mensonge. Ça fait comme une bulle dans le béton. Ouais. Ou alors, il y a de la cohérence et il y a de l'incohérence. Il y a de la pudeur, et après, on est tout nu. Donc, il y a des trous dans le béton. Quand le béton, il est bien tassé, tu attends qu'il sèche. Quand il est sec, tu enlèves le cadre. Vous me suivez ou non? Maintenant, ce béton-là, tu peux le mettre en vacances. Tu peux le mettre avec des gens religieux, avec des gens pas religieux. Tu peux le mettre avec des gens honnêtes, des gens malhonnêtes. C'est pareil, le béton, il est fort. Ça va? Mais il faut le cadre, les barres de fer et le béton. Alors, si c'est ça, parce que quand même le thème principal, c'était de savoir comment on va y arriver. Donc... Alors, numéro 1, en tant que rabbin, je suis obligé de vous le dire. Alors, vous êtes obligé de le croire. C'est que, déjà d'accepter que tout ne dépend pas de nous. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'il faut baisser les bras, mais au contraire, ça veut dire qu'il faut prier. Il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup prier dans l'éducation. Moi, je prie depuis la naissance. Je commence à prier pour mes petits-enfants. Ouais. On prie. Deuxièmement, il faut aimer l'enfant tel qu'il est. Il faut le décider, c'est tout. Maintenant, il est bien, il n'est pas bien, il ne me déçoit pas, je l'aime en tant que tel. Comme Hachem, il nous aime tel qu'on est. Si Hachem, il nous aimait en fonction de combien on fait sa volonté, je crois que tout le monde serait mort, en gros. Ouais. Donc, il faut aimer l'enfant tel qu'il est. Troisièmement, il faut s'adapter plutôt que de se braquer. Il y aura des surprises. Il va te sortir des trucs, tu dis, mais... Top. Il faut s'adapter. Ouais, il faut s'adapter. C'est-à-dire que quand il y a une question, c'est une question maintenant. Maintenant, l'alcool, c'est une question. Ouais, il faut répondre à la question. La cigarette, c'est une question. Le shit, c'est une question. La copine, c'est une question. C'est une question. Donc la question, il faut répondre à la question. Qu'est-ce que tu cherches dans la cigarette? C'est pourquoi faire? Moi aussi, quand j'étais jeune, j'ai voulu fumer. Moi, j'étais dans une yeshiva, tout le monde fumait. Le rav, il fumait 4 paquets de Marlboro par jour. Comment j'ai fait pour ne pas fumer? Ben, j'ai dit, je ne veux pas, moi, devenir un porteur de mégots. Je ne veux pas que mon bien-être... Il existe en fonction d'un élément extérieur. Donc j'ai trouvé des logiques pour garder cette indépendance. Bien que j'ai vu mon rat fumer, bien que lui il m'a dit, sans cette cigarette, il y a beaucoup de rambam que j'aurais pas compris. Je dis, je vous laisse les rambam et la cigarette. Parce que maintenant, à 60 ans, il est comme ça, tu dis, celui-là, ça va pas de fou. Donc c'est quoi l'idée? C'est qu'il y aura des questions, mais il y aura des réponses. Pourquoi? Parce que je vais m'adapter. Si moi je refuse, je vais me braquer. Quand je vais me braquer, je vais être le mur. Quand je vais être le mur, la balle va rebondir. Après, au niveau personnel, en tant que personne, en tant que monsieur, en tant que madame, Parce qu'on est monsieur, on est madame, on est aussi papa et maman, on est aussi chef d'entreprise, on est aussi responsable de famille, on est aussi responsable communautaire, et à part ça, on est papa et maman, à part ça. Donc il faut avoir des systèmes de ressourcement personnel. Ouais. Comment tu fais maintenant? Où tu trouves de la pêche? Où tu trouves de la force? Tu prends des forces dans ton travail, tu prends des forces dans l'étude de la Torah, tu prends des forces dans ton conjoint, pour pouvoir ensuite retourner dans la guerre de l'éducation, parce que c'est une guerre. Ouais. Mais si toi tu mises entièrement toute ta vie sur l'éducation, c'est dangereux. Parce que si tes bonheurs et tes malheurs, tes déceptions et tes satisfactions viennent de l'éducation, tu vas peut-être craquer. Donc il faut que tu aies des sources extérieures de ressourcement. Cinquièmement, il faut beaucoup se soutenir entre conjoints. C'est très important. Hachem, il a voulu un homme et une femme. Essayez de faire avec deux femmes, ça ne marche pas. Bon, les goyim, ils ont des projets, mais ouais. Avec deux hommes non plus. Il n'y a pas de procréation, bien que ça ne se dit plus. Ouais. Mais il faut se soutenir. C'est-à-dire, quand on va parler ensemble, on va développer ensemble, on va construire ensemble, toi, tu vas m'amener un point de vue, moi, je vais m'amener un point de vue. En fin de compte, ça, il y a beaucoup d'énergie qui sont venues. Parce que quand on se s'est soutenu, alors on peut assumer tout ça. Après, c'est en fin de compte, c'est le résumé, c'est qu'il faut être rigoureux dans les principes, mais il faut être tolérant dans l'application. Donc il faut que les principes soient très clairs. Si vous les connaissez, c'est bien. Si vous ne les connaissez pas, il faut les apprendre. Si vous les avez appris aujourd'hui pour la première fois, il faut les réviser, il faut les réécouter, il faut étudier, il faut en parler, il faut lire des livres sur l'éducation, des livres juifs, des livres de Goy, c'est pas grave. Du moment que vous êtes dans un sujet d'éducation, c'est-à-dire que vous avez la problématique de l'éducation. Et ça, c'est pour avoir des principes qui soient clairs. Maintenant, si vous avez des principes qui sont clairs, ces principes, ils sont à l'intérieur, ils sont très forts. Mais après, pour la mise en application, il faut être très, 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 très cool. Ouais. Maintenant, les gens, ils sont le contraire. Les gens, dans l'application, ils sont très durs, mais au niveau des principes, ils sont très cool. Genre, ils changent d'habit tous les 3 mois. Et ce qui compte, c'est la santé. Après, ce qui compte, c'est l'argent. Après, ce qui compte, c'est les études. Après, ce qui compte, c'est le kiff. Après, ce qui compte, laisse-les faire ce qu'ils veulent. Après, tu dis, non, il faut tout leur interdire. Tu vois, les principes ne sont pas clairs. Il faut être rigoureux dans les principes, ouais, et il faut être tolérant dans l'application. Parce qu'Hachem, il a créé le monde selon la Midat Hadin, Elohim, mais il a associé Midat HaRachamim pour que le monde puisse fonctionner. Voilà. Bézant Hachem qu'on réussisse cette mission d'éduquer nos enfants comme il faut. On demande que Hachem l'aime pour tous les malades d'Israël, et en particulier pour Simcha Bat Shelecha et pour...
Amen.
Rosita Batida.
Ina Rachel Bateliza.
Rachel Batkochava.
Amen.
Chaim Ben Simcha.
Amen.
Samuel Ben Eliz.
Amen.
Ah oui. Déjà, je voulais vous remercier d'être venus tellement nombreux. J'ai bien compris que les problèmes d'adolescence vous intéressent. Beaucoup, on ne peut pas faire un an sur l'adolescence. J'ai peur que vous fassiez écrit. Donc le prochain cours sera le 11 novembre. C'est un jour férié, donc a priori, vous pourrez venir.